en Bretagne, c'est, on n'est pas comme à Marseille à prendre l'apéro au soleil. Ça caille, on est au bistrot, donc on écoute du son, donc il y a des groupes. Donc tu vois, et on n'écoute pas du reggae toute la journée, comme quand tu passes la Loire. J'exagère un peu, attention. Les Chemical Brothers, j'ai fait venir les Chemical Brothers, tu vois, c'était bon. Premier album, là, c'est...
Prodigy aussi est venu au Trans, non ?
Prodigy, c'était l'année d'avant, Ennemi to Technique, c'était absolument exceptionnel. Putain, quel concert, la vache, waouh, terrible, terrible.
Je pense que c'est ça qui est important à noter, en fait, c'est que les transmusicales, c'est l'événement sur 4 jours, mais en fait, toute l'année, il y a une asso qui bosse et qui propose des trucs...
C'est sûr que c'est un travail de longue haleine, mais je veux dire, on est vraiment dans la musique toute l'année, quoi. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un mois où on ne fait pas des choses, quoi, de toute manière. Ouais.
Vous êtes dans le tempo, et aujourd'hui, on parle des transmusicales, l'univers des festivals d'Az. C'est l'épisode 80.
C'est parti,
let's go.
Allez, c'est parti.
Écoute, Daz, je suis bien content qu'on se retrouve dans un contexte un peu particulier, il faut le
Est-ce
dire.
Est-ce qu'on est à Rennes ?
Non, on n'est pas à Rennes non plus. C'est vrai que tu as raison, les Transmusicales, c'est un festival de musique qui se tient à Rennes normalement.
Bien sûr.
On n'est pas allé à Rennes. Mais il se trouve que le fondateur du festival et son directeur artistique, Jean-Louis Brossard, qui est avec nous.
Bonjour Jean-Louis.
Ça va Jean-Louis ?
Bonjour les amis.
Eh bien, il vient faire une journée pour discuter avec la presse, etc. à Paris. Et donc, on est chez Sombrero, on est allé à Jean-Louis. C'est pas Jean-Louis qui est venu à nous, c'est nous qui...
Un petit peu quand même.
Un peu aussi.
Ouais, bah oui, quand même.
On a fait la moitié du chemin.
Je suis dans votre nouveau bureau, là, quand même.
C'est vrai. Dans ce décor absolument incroyable, improvisé par Flav. Merci Flav.
Merci Flav.
qui est assis juste
Flav
derrière
Flav, lui-même.
Ah, il aurait pu.
Le Flavor Flav, le vrai.
Il aurait pu.
Absolument. Bon, en tout cas, on souhaite évidemment la bienvenue à tout le monde dans DLT, le podcast des passionnés de musique.
Bien sûr.
On se retrouve un mercredi sur Daz.
Évidemment.
Pour parler de musique. Et ouais, est-ce que tu fréquentes parfois les festivals Daz ?
Ça m'arrive de temps en temps.
Ouais.
Ça m'arrive de temps en temps. Il faut qu'il y ait vraiment soit un line-up de fou,
ouais,
soit une invitation incroyable.
Okay.
Mais
soit les deux, mon capitaine.
Soit les deux.
Soit
les deux, effectivement. Oui, ça m'est arrivé.
Mais peut-être que tu fréquentes plus la Bretagne alors.
Alors figure-toi que moi, en tant que joueur émérite de jeux vidéo, et notamment de jeux de baston, j'ai assisté pendant quelques années au Stunfest, un festival du jeu de baston japonais, notamment, okay, qui prend place à Rennes, bien sûr.
Incroyable, je ne savais pas. Ah, vous avez de la concurrence, Jean-Louis, à Rennes.
Je ne sais pas, mais enfin bon, c'est vrai que c'est à Rennes, absolument.
C'est pas le même délire.
Oui, donc je connais très bien la ville, les galettes saucisses, tout ça, bien sûr.
Voilà, ça y est, tout de suite, on parle...
Voilà. Ah bah, le folklore. Oh, les clichés, Moi, je peux parler du foot rennais, éventuellement.
Oui, on aussi. Peut parler.
Bon, Jean-Louis, il faut quand même que je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as donc, je le disais, cofondé les Transmusicales. Alors, c'était avec Béatrice Massé et Hervé Bordier,
oui,
à l'époque.
Tout à fait.
En 1979.
Oui.
Ça devient, avec le temps, un festival quand même important en France.
Oui, je crois.
Enfin, ouais, hein.
Ça met un peu de temps, mais.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc, tu l'as cofondé, mais très vite, tu as occupé un poste précis que tu occupes encore aujourd'hui, et ça fait quasi 45 ans, qui est celui de directeur artistique.
Ouais, c'est un bien grand mot.
Ça
si
signifie quoi d'ailleurs, en fait,
directeur? Je sais pas, c'est le gars qui va choisir les groupes et tout ça. Enfin, toi, il est plutôt sur la musique plutôt que sur le financier,
ouais,
ou la technique, directeur technique, ceci, cela. Donc, ça correspond un peu à un intitulé qui me va parce que, bon, c'est vrai que moi, c'est la musique et la musique, rien que la musique. Ouais. Enfin, pas vraiment, parce que je m'intéresse à tout le reste, bien sûr.
Il faut le faire tenir, ce festival, quand même.
Oui, bien sûr. Et voilà, donc c'est ça ma partie, et c'est mon mojo. C'est ça qui me fait avancer tous les jours.
Tu parles de musique, on peut citer... Alors, l'une des particularités des Transmusicales, c'est que vous vous placez sur l'idée de la découverte, de l'émergence, d'une certaine manière, de dire, vous venez aux Transmusicales, vous allez ouvrir votre horizon musical, quoi, en gros.
Ouais, si on veut, on peut dire ça, mais...
Non, ça te convient pas ?
Ouais, je sais pas, enfin, pas des grands mots, donc, je sais pas, c'est d'abord de la musique, avec des artistes que les gens connaissent pas, faut savoir que le festival est né avec que des groupes de Rennes, et les Rennais connaissaient même pas les groupes qui sont venus jouer, donc, tu vois, c'est assez... voilà.
Et on est d'accord qu'il y a quand même de l'éclectisme ?
Oui, mais ça, il y avait déjà toujours. Ouais. Tu vois, par exemple, la première année, il y avait un groupe, c'est assez marrant, qui s'appelait Oniris. C'était un groupe un peu dans l'esprit ange, je ne sais pas si vous avez parlé.
Bien sûr.
Oui, quand même.
Un peu prog, un peu dans ce
délire. Voilà, tout à fait. Voilà, c'était un groupe qui venait de Lunéville. Et donc, voilà, ange. Et puis, à Rennes, on avait Oniris, qui était un peu dans le même style, si tu veux. Voilà, là, on est dans les années, donc en 79. Donc, et je me rappelle... sur scène, il y avait un chanteur qui s'appelait Alain Gallet, qui était après journaliste radio. Et le gars, il monte sur scène, si tu veux, il est habillé tout en blanc, avec une mouette empaillée à la main, puis il est là, oyez, oyez, brave Jean, la complainte de Guénolé, l'hippocampe, je suis schizo, je suis schizo.
Ah, c'est le Ozzy Osbourne breton.
Oui, mais enfin, tu as la version ange quand même, un peu grave, si tu veux, ils avaient tous des bonnets en riz complet, et tu vois, à l'époque, tu vois, le truc qui va bien.
Okay.
Et donc voilà, et puis il y avait aussi Mark Itzad. Et donc effectivement, là c'était vraiment la transition totale entre cette espèce de prog rock, tu ouais. vois, qui n'était pas non plus antipathique. C'est un groupe qui avait signé chez Barclay, qui a fait un album d'ailleurs. Et donc entre Oniris, qui avait eu la gentillesse de nous prêter la sono, parce qu'on n'avait rien, c'était. Ouais. Et donc Mark Itzad qui a révolutionné un peu le rock en France, un peu qui était l'équivalent d'un Joy Division en Angleterre. Enfin, c'était différent, mais c'était au même moment, avec beaucoup d'énergie. Et là vraiment, le monde s'est scindé en deux, quoi. Tu vois, il y avait les anciens et les nouveaux, et c'est là donc qu'on est rentré, quoi. Donc c'est, la porte est ouverte par Mark Itzad.
Alors, tu parles de Mark Itzad, tu parles de Ange, ouais. en tout cas dans l'esprit Ange.
Oniris,
ouais, qui était à la première édition, donc. Derrière, il y a eu des grands noms qui, alors, soit qui vraiment sont fait découvrir en partie à travers les transmusicales, soit c'était leur, déjà un peu connu, mais leur premier concert, en tout cas en France, quand c'est des étrangers, ça arrivait souvent que ce soit aux transmusicales. Pour les étrangers, je pense, premier concert des Fugees en France, premier concert de Lenny Kravitz, Björk, Ben Harper.
Oui, oui.
Transmusicale. Et puis sur les Français, ça a quand même participé à les faire découvrir Étienne Dao, Daft Punk, Stéphane Escher, La Mano Negra, Rachida, Stromae, Nirvana en 91.
Et oui, c'est
pas mal ça.
Ah ouais, c'est pas mal.
Ça t'arrive rétrospectivement de te dire là j'ai eu le nez creux.
Ouais, mais je les avais vus avant sur un festival aux Pays-Bas. Là, j'avais pris vraiment une très grosse claque. Quoi, okay. tu vois, je m'attendais pas du tout. Et donc après, j'ai fait venir le groupe. Et c'était bien parce qu'on est tombé juste pile poil. Si tu veux, le festival, c'était un mois après la sortie de Nevermind.
Un carton album culte.
J'ai mis Smell Like Teen Spirit, donc c'était vraiment le tube, si tu veux. Il était sur ma compil des trans. Voilà, j'avais deux morceaux avant, c'était en troisième. Je me rappelle, le premier, c'était un Africain qui s'appelait Zao, qui avait un morceau qui s'appelait Ancien Combattant.
Mais oui, zéro admis omniprésent, Zao.
Voilà, Zao,
c'est mon daron.
Et après, je ne sais plus quel groupe il y avait. Quand t'allais dans les bars, par contre, tout le monde démarrait au numéro 3 sur Nirvana. Merde de la compil des trans. C'était un peu dur pour les deux premiers.
Ah, ils ont tout phagocyté, quoi.
Un peu. Mais le concert était vraiment exceptionnel, quoi.
Donc là, Nirvana, c'était un. Tu les avais vus en concert ailleurs.
Oui.
Sinon, les autres groupes, en tant que DA, du coup, c'est au hasard de tes découvertes.
C'est tout. Si j'écoute de la musique tout le temps, pratiquement, si tu veux. Ouais. Donc, ça peut être un disque que j'ai acheté. Je lis beaucoup aussi la presse, si tu veux, française, anglaise, etc. Les sorties de disques, les nouveaux trucs. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'aime faire. Après, je reçois beaucoup de liens. Après, quand je vais sur un festival, ça fait 3-4 par an, si tu veux. Je vais aller sur un festival de showcase, alors je te cite par exemple Eurosonic, tiens, c'est aux Pays-Bas, c'est au nord du pays, à Groningen, qui est une grosse ville étudiante, c'est pour ça qu'ils font plein de trucs bien. Et donc il y a 400 groupes, mais j'écoute les 400 avant d'y aller, donc ça prend du temps. Oui, tu peux pas y aller les yeux fermés. Okay. Toi, même si tu sais, tu as un petit descriptif sur chaque groupe de ce qu'est la musique, c'est une chanteuse de R&B, etc. Après, tu diras, une chanteuse de R&B encore, c'est chiant ou machin. Non, et puis des fois, ça peut être un truc surprenant, elle va plus dans le rap, ou c'est plus électro, le son va me plaire. Tu vois, tu peux rien laisser de côté, tu vois. Voilà. Et comment te dire, j'écoute tout, après je prends des notes, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, je fais une croix sur un truc, c'est-à-dire, faut y aller. Deux croix, oui, j'y vais absolument. Trois croix, je suis une demi-heure avant le début du concert pour être sûr de pouvoir rentrer dans la salle, tu vois, parce que c'est quand même beaucoup de gens dépassent sur ces festivals de showcase, mais tout le monde ne peut pas rentrer des fois, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, ça, c'est.
Mais du coup, parce que, donc, 45 ans d'existence, ce qui est quand même assez considérable. Entre temps, les modes de consommation de la musique ont
changé, bien sûr.
Complètement changé, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que c'est. Est-ce que toi, tu as dû t'adapter aussi à ce truc-là, changer ta façon de procéder peut-être, parce que maintenant on a.
J'utilise les outils comme vous, si tu veux, tu vois, pour. Par exemple, toi, il y a un groupe, j'ai écouté les sons, ça me plaît bien, j'ai dit, putain, quelle gueule ils ont, j'ai machin, tac-tac, YouTube, et je dis, ah ouais, tiens, il y a lead singer, machin, guitare, basse batterie, ça me plaît, ils ont une gueule. Enfin, c'est intéressant, moi, le charisme, ça me plaît bien. Surtout quand tu fais du live, donc tu vois, voilà, donc moi, c'est le genre de truc qui.
Oui, il y a quand même ce truc-là, c'est-à-dire que tu peux. apprécier la musique et te rendre compte en découvrant le groupe, l'artiste, que oui. Peut-être qu'en live, ça va
peut-être,
pas le faire.
Peut-être, peut-être. Ouais. Oui, oui. Tu vois, les mecs jouent comme des patates. Non, j'exagère, mais ça peut aussi être le cas du truc où malheureusement, ça le fait pas.
Ouais.
Tu vois, mais c'est, voilà, c'est un plus ou un moins. Mais en tout cas, c'est des outils qu'on peut utiliser. Mmh. Ouais.
On reviendra en détail dans une partie même dédiée à ça. Je pense à la programmation, à cette idée d'aller dénicher des groupes de musique. Mais je précise, pour terminer quand même ta présentation, Jean-Louis, que les Transmusicales, c'est un festival, mais ça va au-delà de ça. C'est une association aussi. Et en fait, où toute l'année, vous programmez de la musique, vous proposez des ateliers aussi, vous accompagnez des artistes,
etc. Oui, on accompagne des artistes. On fait des concerts. On a un lieu qui s'appelle l'Ubu, donc il y a une salle de 400 places. On fait des concerts tout le temps.
Et toi-même, t'es... Alors, j'ai vu que plus jeune...
Ah, tu veux tout savoir, toi.
Plus jeune, t'as fait un peu de musique. Tu continues ou...
Non.
T'es plus musicien.
Alors, moi, je viens d'un milieu qui est plutôt du classique. Mon papa était professeur de basson. Ouais. Et comment te dire, nous on est d'une famille bordelaise, tu vois, donc voilà, je suis né à Bordeaux, à Talence, où je suis seulement né, donc c'est j'y suis resté que le temps de naître, tu vois, c'est-à-dire que ça n'a aucune signification pour moi. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est la banlieue bordelaise. Et mon père, qui était donc professeur de basson, on lui a proposé un poste à Saint-Brieuc ou à Rio de Janeiro. Donc évidemment, il a pris Saint-Brieuc, sinon je ne serais pas en train de vous parler là aujourd'hui. Voilà, non mais c'est vrai, mais bon, là, non, il n'aime pas trop voyager, mon père, il n'était pas très assez casanier. Brossard était un peu casanier. Voilà.
Rio ou Saint-Brieuc, ouais, ça
marche. Ah ouais, non, Saint-Broc, alors. Mais c'est bien, je suis content, c'est à Bretagne, déjà, ça m'a permis de découvrir la Bretagne, etc., et d'être pas loin de Rennes, où je suis arrivé donc en fac. Alors, c'est vrai que moi, je viens d'une famille, si tu veux, je suis fils unique, déjà, et donc, c'est les parents qui décident pour toi. Par exemple, Jean-Louis va faire du violon, donc Jean-Louis va faire du violon de 5 ans à 15 ans, il fait du violon. Jean-Louis va faire du judo, alors Jean-Louis va faire du judo, sauf que la dernière année de judo, il a même pas passé, si tu veux, au judo, quoi. Il allait voir un copain tous les dimanches matin.
Ah ouais?
Et il y avait mes parents, mais ils ont toujours pas endossé le chèque, c'est bizarre quand même au judo, comment ça se fait? Bah, j'ai rendu à la fin de l'année, j'y suis jamais allé. Et toi, j'avais un vélo routier aussi, donc ça me plaisait pas. Je voulais un demi-course comme tous mes potes, quoi, tu vois. Et tout le monde sautait de ma gueule au bahut, bien sûr. J'étais obligé de le planquer dans un truc, tu vois, c'est chiant. Enfin, tu vois, ou des fringues. Je déteste les magasins de fringues, quoi. Mais vraiment, parce que j'allais avec ma mère et chaque fois, elle m'achetait un truc que je ne voulais pas, quoi. C'est affreux, quoi. Alors, au moins, quand j'ai eu un peu de sous, ben, j'ai acheté des disques. Voilà. Alors, faut savoir que, quand même, la chose qui était la plus importante, c'est la radio. Voilà. Avec la radio, mais c'est là où j'ai découvert toutes les musiques, avec des émissions l'après-midi, et surtout le pop-club de José Arthur, tu vois, où les deux premières émissions, c'était au début, il y avait Pierre Lattès qui présentait, après c'est Dominique Blanc-Foncard, la première heure était rock, et la deuxième était blues et jazz, tu vois. Et tous les soirs, dans mon lit, voilà, je m'endormais avec le pop-club. Alors des fois, si je m'entendais, des fois j'arrivais à m'endormir un peu plus tard, j'entendais quand même José Arthur avec ses invités, mais pas toujours, quoi.
Bon, c'est sacrée expérience, Daz. On le voit.
Voilà, mais attends, je vais seulement
terminer.
Oui, parce qu'en fait, j'ai fait du violon, mais c'était pas trop mon truc, tu vois.
Ah oui, t'as pas continué derrière.
Non, j'ai fait 10 ans quand même, tu vois. Ouais. J'ai commencé à 5 ans avec un tout petit violon, ce qu'on appelle un quart. Tu vois, après, t'as un demi, un trois quarts, un entier. Et voilà, j'étais pas si bon que ça. Et puis, je m'intéressais à d'autres choses déjà.
Et ça t'a pas amené, parce que tu sais, parfois, ça arrive. Effectivement, les parents sont derrière. Ils orientent vers un instrument. C'est pas son truc pour l'enfant. Mais par contre, ça fait naître quand même la fibre pour éventuellement un autre instrument, une autre pratique musicale.
Oui, tout à fait.
À l'adolescence.
Ouais, j'aurais pu passer à autre chose, mais pas vraiment. Ouais. Si tu veux, tu vois, je suis vraiment devenu le mec qui.
C'est l'auditeur, toi. C'est,
ouais, voilà, j'achète des disques. Et puis après, je faisais des fiches sur lesquelles je marquais, tiens, les Mozart of Invention de Frank Zappa. Alors, il y a Frank Zappa à la guitare, Ray Collins au chant, Ian Underwood, tout ça. Je faisais des fiches avec les noms des musiciens, les compositeurs et tout ça. Et après, ça me permettait d'aller chercher d'autres disques ailleurs, tu vois. Et après, à l'époque, il y avait un peu rock et folk, Bess, peut-être. Autrement, ton magasin de disques à Saint-Brieuc, ils vendaient aussi des réfrigérateurs, des machines à laver. Et si tu vois la disque des Stooges ou de King Crimson, il fallait que tu le commandes en Angleterre. Ça prenait un peu de temps. Donc, c'est à la Sainte-Cécile à Saint-Brieuc, Sainte-Cécile qui est la patronne des musiciens, d'ailleurs. Mais bon, j'arrivais à trouver des trucs. Hein.
Vu tout ce que tu nous cites, toi, ta culture, c'est le rock à la base?
Oui, c'est le rock, c'est le rock. Et alors déjà quand j'étais petit, mais là où ça a été vraiment très très fort pour moi, c'est la période 76-77. Okay. Tu vois, où j'ai découvert vraiment le punk rock, où j'allais à Londres à des concerts, j'ai vu des trucs incroyables, je suis allé au festival punk de Mont-de-Marsan en 77. voilà, qui était organisé par Marc Samati et Alain Lana, qui était vraiment génial, avec Clash, des dames.
C'était le premier en France, je crois.
C'était le deuxième de moi.
Ah ouais.
Ouais, c'est Mont-de-Marsan 2. Il y a eu un premier avant.
Mais oui, en tout cas, ouais. c'est la seule ville à l'avoir fait à l'époque.
Ah oui, oui, ouais, ouais. C'est fou. À Mont-de-Marsan.
Je me demande s'il n'y a pas un docu là-dessus. C'est une histoire un peu oubliée.
Ouais, il y a un bouquin qui est sorti dessus. Après, je sais pas, je crois qu'il y a des images. Je pense qu'il y a des images de Mont-de-Marsan. Enfin, c'était assez incroyable. On est parti à plusieurs là-bas, à trois, et puis voilà. Donc c'était, tu vois, des choses phénoménales. C'était très drôle aussi. Le public était marrant. Et puis Londres surtout. Où là vraiment, tu sortais le soir. Dans n'importe quelle salle, il y avait trois groupes géniaux, quoi. Tu vois, t'allais voir les Only One, les Stukas, les Dian Dioutroads. Enfin bon, c'était incroyable. Des disques qui sortaient de partout. Voilà.
Et c'est déjà à cette époque que tu commences à amasser une collection, parce que.
Oui. Mais parce que
j'ai. Tu as quasiment 20 000 disques aujourd'hui.
Oh non, oui, oui, mais là c'était quand même c'était il y a 40 ans. Ouais. Mais non, c'était. J'ai un souvenir de. Comment on se retrouve à. Comment dire ça? À Camden. À Camden Town. Donc tu sors du métro et là, tu avais une boutique de disques qui s'appelait Rock On. Voilà, tu vois le truc. Pour le mec qui habite même à Rennes, tu vois, il y avait des trucs sympas. Mais alors, comme celui-là, ça n'existe nulle part au monde, quoi. Tu vois, tu rentres dedans. Je suis arrivé, c'était 9h30, 10h. Voilà, le matin, pof, je rentre, tac, déjà, il y avait du son. T'as un mec qui est là avec un petit comptoir. Le mec, il a un petit tourne-disque, il passe de la musique, quoi, tu vois. Puis je suis rentré là. J'en suis sorti à 18h.
Ah ouais.
Il y a Béatrice, ma copine, qui m'avait ramené un fish and chips que j'ai mangé dedans, quoi.
L'anglais, quoi.
Et tu vois, il y avait le premier Sex Pistols qui était sorti, le premier concert des dames, tous les trucs du label Steve, She Swig, tout ça. C'était un truc, Elvis Costello, tu vois, un truc comme ça. Et comment te dire, le gars, on a discuté, puis il y avait des gens qui arrivaient, tu vois, puis qui écoutaient du rockabilly, enfin, tu vois, puis j'écoutais en même temps, tu vois, j'ai regardé tous les scuds. Et puis, j'avais mon copain, Titi, qui est devenu après le régisseur des trans, qui était avec nous. Et donc, Titi, il achète 12 45 tours. Donc, le mec lui dit 8 pounds. Alors, donc, il donne 8 pounds, quoi. Puis
pas
moi,
cher.
J'en ai.
Hein? C'est pas cher.
C'est pas cher. Moi, j'en ai 80, par contre. Tu vois, et là, je demande au gars combien je te dois. Le mec, il me dit 12 pounds. Je dis, attends, excuse-moi, je le regarde et il fait quoi? Je dis, non, 12 pounds. Alors, je sors 10 livres, si tu veux, je lui donne, quoi. Puis, je vais pour sortir 2. Il me dit, non, ça, c'est pour moi. Tu vois le truc. Cool. Bon, on a parlé de musique pendant 6 heures, peut-être, tu vois.
Ouais.
Ouais, donc il s'est créé un truc, c'est sympa. Ouais. C'est un très bon souvenir.
J'imagine.
Voilà.
Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu vraiment dans le cœur de notre discussion, avec une première partie où on peut parler quand même un peu des festivals de manière générale et de la spécificité des trans. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si selon toi, il y a une forme un peu de typologie de festival, parce que les trans, c'est pas Coachella, mais c'est pas non plus les Francofolies. Il y a un peu des, j'imagine quand même, à la fois des échelles de festival.
On n'est pas en plein air déjà, par rapport aux deux autres que tu viens de nommer aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est un festival d'hiver, donc il n'y en a pas eu beaucoup, hein, vraiment.
Ah oui, c'est pas commun, les festivals d'hiver?
Non, ben, il n'y en a pas vraiment, hein, okay. Tu vois. Enfin, à Paris, il y a des trucs, mais c'est trois jours de concert dans une salle, où le lendemain, il y a trois jours de concert aussi, donc ça... Tu vois, un festival à la Cigale, c'est pas un lieu qui va t'adapter, qui va te transformer, qui va te décorer pour un événement précis, tu vois. Ouais, c'est un concert...
Depuis le départ, c'était en hiver, en tout cas automne.
Alors le truc, oui, c'est une bonne question, parce que la première édition a eu lieu en juin 79. Et donc, moi j'étais étudiant, très mauvais d'ailleurs, mais en médecine, je suis allé à un cours en deux ans. Enfin bon, faut pas dire ça à nos auditeurs, parce qu'après... Et voilà. Et donc Béatrice, elle était en latin-grec linguistique, Hervé était disquaire, voilà. Et il y en avait un autre qui était libraire, tout ça.
C'est avec qui tu as créé le festival.
Voilà, on bossait. Et puis, je veux dire, on n'a pas eu le temps on a fait une édition, et puis après, c'est d'autres gens qui sont venus nous chercher, et surtout des groupes qui ont dit, ouais, faites ça, ça nous branche. Tu vois, on a envie de jouer aussi des copains d'autres musiciens, je pense à Orchestre Rouge, le groupe de Théo Acola, qui est venu, des Marquis de Sade avaient splitté, donc il y avait des mecs du groupe qui avaient monté d'autres groupes comme Les Nus, par exemple. Voilà. Et donc, on a dit, on y va, et puis c'est comme ça que c'est passé. En décembre, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire pour le mois de juin.
Quoi. Ah oui, c'est rigolo. C'est juste une question purement logistique.
Et après, on est donc resté là, quoi. Et on a eu une chance assez phénoménale, c'est que dès la première édition, il y a eu des médias à s'intéresser aux trans. Mmh. On a eu un article dans Libé, un article dans Ouest France, donc ça a commencé à faire parler. Et après, les maisons d'ici ont vu qu'il y avait des choses ici, parce qu'à l'époque, il se passe évidemment des choses à Paris, il y avait un peu de choses aussi à Rouen, parce que Rouen, ou Le Havre, parce que c'était près de l'Angleterre, donc les gens, ils pouvaient traverser le Channel en bateau, etc. Et donc, voilà, il y a des groupes anglais qui allaient à Paris, pouvaient s'arrêter au Havre ou à Rouen, tu vois. Donc, autrement, les autres, ils ne les voient pas, quoi. Tu vois, donc, et ça, c'était quand même quelque chose qui était important. Donc, voilà, ça commençait comme ça. Donc,
le côté en hiver, ça, c'est une spécificité. Oui. C'est pas commun dans le monde des festivals.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre, un peu comme grand type de festival? Alors, tu disais plein air aussi, normalement. C'est la norme dans les festivals, plutôt le plein air ou pas, forcément?
Je sais pas, il y a beaucoup de festivals. Je sais qu'en été, par exemple, peut-être 700 festivals, je veux dire, en 3 mois, en Bretagne. Hein. Ouais. Bah, la Bretagne, c'est particulier, mais quand même, il y a plein de choses. Dans tous les styles, quoi. Donc, tu vois, on n'a pas une tradition, enfin, celte aussi. Enfin, déjà, en Bretagne, on n'est pas comme à Marseille à prendre l'apéro au soleil. Ça caille, on est au bistrot, donc on écoute du son, donc il y a des groupes. Donc, tu vois, et on n'écoute pas du reggae toute la journée, comme quand tu passes la Loire. J'exagère un peu, attention. on peut rigoler un peu, mais ouais. Voilà, tu vois, donc...
Ouais, donc, en fait, c'est aussi une question de climat, tout simplement.
C'est une question de climat, c'est une question
culture,
culture
bretonne.
Bien sûr, ouais.
Ouais,
tu vois. Après, la culture bretonne, c'est autre chose. Parce que moi, mon premier concert de rock, c'était au début des années 70, mais en fait, c'était Alan Seavell dans une salle à Saint-Brieuc, tu vois.
Que vous avez fait venir après aussi au
trans. Rock, Alan Seavell, il en fait toujours d'ailleurs, tu vois. Mais c'était pas catalogué comme musique bretonne, musique celtique, quoi, tu vois. Ouais.
Et alors, quel autre, en termes de jauge, par exemple? Parce que pareil, il y a des échelles de festivals. Vous recevez combien de personnes à peu près à chaque édition?
Je sais pas, au début, on était à 1800 personnes en 2 jours, et maintenant, si tu veux, sur 5 jours, plus un peu la tournée des tranches et les événements qu'on fait un peu avant, au mois de novembre, on est à 60 000.
Okay. Ouais. Ah oui, ça se place comment en France? Ouais, moi, je me rends pas compte.
Moi non plus.
C'est vrai?
Ouais, puis je m'en fous, alors. Ouais.
Parce que, quand même, pour parler... Les plus gros en France, à ma connaissance. Alors, il y a l'Interceltique, mais c'est particulier.
L'Interceltique de l'Orient. Les mecs, ils comptent un gars qui est en train de passer dans la rue pour choper
une bière. En fait, c'est comme c'est dans la ville, mais effectivement, non, attends, ça donne des jauges complètement folles.
N'écoutez pas si vous êtes à l'Orient.
Non, alors à ce moment-là, si on met l'Interceltique de côté, je pense que c'est le Hellfest en jauge, probablement le plus gros.
Ouais, t'as les vieilles charrues, c'est pas mal aussi.
Ah ouais, les vieilles charrues aussi.
Ouais, les vieilles charrues.
T'as une idée juste c'est quel ordre à peu près de.
Je sais pas, moi.
C'est du 100 000, c'est des trucs comme ça, je sais pas, non.
Attends, on va les appeler.
Ouais. l'écosystème, les autres festivals, leur fonctionnement, ça t'intéresse pas tant que ça?
C'est pas que ça m'intéresse pas. J'y vais de temps en temps quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie de voir, ou voilà, un groupe que je défends. Tu vois, mais chaque festival a son côté spécifique, si tu veux. Tu vois, et tout est respectable. Tu vois, après, tu peux pas dire ça c'est pas bien, lui est pas bien, non ça c'est pas bien parce qu'il fait ci ou qu'il fait ça. Déjà, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des choses. Moi ce qui m'énerve c'est ceux qui sont que de la gueule, tu vois. Ou ceux où faut faire ci, faut faire ça. Alors là c'est yaka. Et y a qu'à faire ci, y a qu'à faire ça, mais qui eux ne font rien quoi. Ça c'est un peu un classique des fois.
Mais là sur toute la vie du festival, l'endroit, Rennes, ça a jamais été remis en question. À aucun moment, tu t'es dit, tiens, peut-être qu'on pourrait viser plus grand.
À un moment, je savais que Montpellier était intéressé par les trans, par exemple. Okay. Le maire, je crois que c'était Fraîche à l'époque, ça. J'avais entendu dire ça, quoi, tu vois. Mais si tu veux, nous, on est restés à Rennes. Enfin, bon, il y a Hervé qui est parti le premier. Et, parce qu'il voulait vivre autre chose à Lille, à l'aéronef. Et, voilà. Mais je sais pas, moi, c'était ma ville, c'était l'endroit où je me sentais bien. J'aimais la scène rennaise. Et, voilà, j'ai décidé de continuer là, quoi, tu vois.
Donc c'est remarquable, parce que même au niveau, tu sais, de, je sais pas, des changements en termes de municipalité, machin, etc., des gens qui arrivent et qui peut-être ont moins d'affect pour le festival, qui auraient pu dire, ben non.
Oui, ça pourrait très bien arriver, tu vois, mais pour le moment, si tu vois, la mairie, depuis 77, c'est socialiste, donc ils ont mis du temps aussi à nous financer, attention, on n'est pas arrivé là, je veux dire, tu vois, au début, on a ramé, on a galéré, on a des grosses plantures. Tu vois, voilà, on s'en est sorti, mais on n'est jamais à l'abri d'une galère à tous les niveaux, tu vois. Mais voilà, je sais pas. Puis mon truc, c'est essayer de faire vraiment découvrir un autre univers aux gens, au public, quoi. Ouais, ça, par la musique, quoi. Aussi rassembler les gens quelque part, ouais, c'est un peu blablabla. Mais tu vois, c'est vraiment des gens qui viennent du monde entier, de partout. Donc, tu vois, tu peux avoir une proximité avec, je sais pas, un artiste sud-africain ou un artiste japonais, chinois, indonésien, il se passe un truc et pour eux aussi il se passe quelque chose. Tu vois, ce qui est très important pour moi aussi, et j'ai beaucoup de souvenirs qui sont là, si tu veux, c'est la rencontre avec les musiciens. Quand ils arrivent, toi, de très loin souvent, ou découvrent quelque chose et ce que le festival peut leur apporter. C'est-à-dire une certaine notoriété et ça peut leur permettre aussi, si tu veux, de vivre mieux dans leur vie de tous les jours. Tu vois, je vais te parler d'un petit groupe malgache qui s'appelle Dizzy Brain, qui était venu donc au Trans pour la première fois. Et les Dizzy Brain, tu vois, c'est catcha écorché, quoi. Les mecs sont sur scène, c'est des stooges, hein. Les gars, ça dépote, c'est du rock, tu vois. Ils sont à fond, quoi. Et les mecs font un concert incroyable. Après, ils tournent en France, ils ont pu vivre en France, tu vois. Et puis, à un moment, t'as le petit bassiste, il a chopé un concert, quoi. Toi, il serait resté à Mada, il serait mort. Mmh. Le fait qu'il puisse rester en France, tu vois, ben, je veux dire, ça lui a permis, si tu veux, de pouvoir s'en sortir, je crois, tu vois. Et je trouve que si les trans ont pu aider à ça, déjà, c'est formidable, quoi, tu vois, de se dire que, voilà, tu vois, le monde a pu s'en sortir, quoi, tu vois.
Ça marche dans les deux sens, ouais, ils apportent quelque chose et le festival leur apporte quelque chose aussi.
Voilà, après, ils ont pu acheter une case à leurs parents, enfin, tu vois. Tu vois, c'est des gamins, quand ils sont venus là, tu vois, par exemple, j'ai cité, t'as un mec dans, comment il s'appelle, dans un groupe... Un chanteur, je crois que c'est le mec des Smashing Pumpkins, quand le mec est venu à la
Billy
route
Corgan.
Du Rhum. Hein, voilà,
Billy Corgan.
Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Et lui, le mec, il ne boit qu'une eau d'un volcan d'Islande, quoi, tu vois. Donc, les gars du festival, d'ailleurs, étaient obligés d'envoyer un runner à Paris en chercher pour lui, sinon il jouait pas, enfin, des trucs.
Ah
oui,
d'accord.
Oui, non, mais tiens.
Ah, il y a quand même
ouais.
des.
Oui, tu vois, ça existe. Et de l'autre côté, t'as les Dizzy Brain, qui disent, bah, t'as un arrive, si tu veux, quand on arrive à mettre un peu de viande dans notre tri, on est content, quoi, tu vois. Donc, j'ai deux poids, deux mesures et.
D'accord, ah, c'est-à-dire que
c'est
même
ça
si...
Aussi, ça montre ça aussi. Tout.
Parce qu'on parlait du fait que c'était un festival qui mettait en avant l'émergence, oui. Donc des groupes qui sont en train de sortir, et donc on peut penser qu'on pas encore des comportements de diva, de...
Oui, mais ça, je te parle, c'était pas chez moi,
okay,
le gars
d'accord.
Billy Corgan, non, c'était à la Route du Rock,
okay.
C'est ça. Ouais.
Ok, parce que toi, au trans, ça serait pas passé, ça.
Non, tu rigoles. Non.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait de Dizzy Brain, un de leurs morceaux?
Ah, bah, si tu veux, ça, ah oui, ça c'est une bonne idée.
Bah ouais. Alors, je vois sur un de leurs tubes, en tout cas un des plus écoutés, c'est Vangui.
Ah, Vangui, c'était le tube à l'époque où je les ai faits.
Tiens, bah, écoute, on peut faire ça. Ouais. Et figure-toi que j'avais un titre liké des Dizzy Brain déjà, tu vois, à l'époque.
Voilà, c'était incroyable.
Mais écoute, on va s'écouter Vangui.
Quel éclectisme. Allez.
Vom cause la tata bin map so vange kara weis kara mana lana zga Vazu et miatsch kam tu tu vango
Un petit côté Tinted Love de Soft Cell.
Ah oui, tu trouves.
Mais alors, comment est-ce qu'on tombe sur un groupe de rock malgache
Très bonne question.
Quand même,
Mais si vous voulez, Madagascar, c'est pas loin de l'île de la Réunion. Donc,
ouais.
Voilà, donc moi j'y suis allé deux fois avec des groupes de Rennes, et puis la première fois je suis allé pour aller découvrir des groupes réunionnais, et c'était Daniel Waro qui m'invitait, donc chanteur réunionnais de Maloya, qui m'avait invité au Trans. Que j'avais invité au Trans et qui m'avait invité là-bas pour le concert d'un album qui venait de sortir qui s'appelait Bois Rouge, je crois. Et voilà. Et donc là, il y avait plein de groupes de partout et j'ai rencontré un copain qui après est allé à Mada et c'est lui qui m'a envoyé donc les Dizzy Brain parce qu'il organisait un petit festival là-bas avec des Réunionnais, des Mauriciens et tout ça. Voilà, donc Waro qui a joué trois fois au Trans d'ailleurs. C'est mon chanteur français préféré, donc il chante en créole et l'autre c'est Denis Prigent qui chante en breton. Voilà.
C'est ton chanteur préféré francophone.
Ouais, ouais. Okay. Ah ouais, Daniel, c'est incroyable. Je sais pas, vous avez déjà vu Daniel Waro sur scène, c'est extraordinaire.
Même pas, tu connais ton nom.
Comment
ça s'écrit?
Des percus. Ah,
Daniel
Waro.
Daniel Waro.
Il joue du kayom, donc un instrument qui est fait avec des tiges de canne et dans lequel on met des graines.
Parmi les plus écoutés, on a Au Café du Canal, on a Batarcité, La Mauvaise Réputation.
Ouais. Batarcité.
Parfait, ouais. Let's go.
Moi pas blanc, non, moi pas noir, t'as pas moins si mon histoire.
Ouais, ça c'est le tube.
Toti, Kavya, Maluba, moi nation, banfan, bata.
Allez.
Koti kafia malba, my nation van vata.
Allez.
J'avais indiqué en introduction un truc qu'il faut aussi qu'on explore parce que c'est l'une des spécificités des trans. J'essayais de recontextualiser ça dans les festivals de manière générale. C'est le côté l'association et cette idée que le festival qui se passe donc en décembre, là c'est du 4 au 8 cette année,
oui.
Il marque un moment important dans l'année, mais en fait c'est l'apothéose entre guillemets, mais il y a un travail au long cours quoi, derrière ça quand même, non ?
Oui, alors déjà, c'est monter un festival pour tous ceux qui en font. C'est beaucoup de travail avec beaucoup d'équipes. Mais c'est vrai que nous, on a une particularité, c'est qu'on a un petit lieu. On a un des plus gros festivals, entre guillemets, en salle. Et puis d'un autre côté, on a une petite salle qui s'appelle l'Ubu, voilà, que l'on gère avec l'Assaut des Trans. On fait des concerts 2-3 fois par semaine. Alors, il y en a une partie qu'on produit nous, et l'autre partie, c'est on a coproduit avec des associations rennaises. Okay. Voilà, de tout style de musique. Hein, ça va du hip-hop aux musiques électroniques. Donc il y a des concerts de 20h à 1h, d'autres qui commencent à minuit, qui se terminent à 6h du matin. Tu vois, il y a un peu de tout, quoi.
Parce que l'Ubu, oui, c'est une plus petite salle. Et oui. Dans le cas des transmusicales aussi, enfin le festival, il y a des concerts qui se passent là-bas. Oui. Mais le principal, c'est quand même au Parc Expo, qui là, par contre, c'est des grandes halles où là, on peut mettre beaucoup plus de gens, j'imagine, quoi.
Oui, ben là-bas, c'est très différent. On peut aller, je ne sais plus, c'est peut-être 13 000 personnes par soir. Et donc, il y a quoi, 4 halls. Après, voilà, on se balade parmi tous ces concerts. Voilà, on va manger, on va boire un verre, on va voir telle chose, telle autre. Il y a des ambiances particulières par rapport aux salles. Et puis, voilà, tu as la Green Room, par exemple. Alors là, c'est que de la musique électronique, quoi. Tu as avec des lives et aussi des DJ, c'est un truc à part. Puis le reste, il y a un hall un peu plus rock, l'autre qui est un peu plus.
C'est quand même dédié un peu les
ouais,
scènes parce des esthétiques.
Parce qu'il y a des scènes, si tu veux, avec certains éclairages. Enfin, je connais les équipes techniques et je sais que ça colle mieux, par exemple, à un groupe africain, tu vois, qu'un groupe de rock, okay. Par exemple. Et le rock, il va être mieux dans celui-là. Après, il y a des choses qui se passent, tout se passe un peu au même. On peut tout voir. Moi, j'essaye, il faut marcher vite, mais il y a 4 salles qui tournent en même temps. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de groupe sur scène, il y a un DJ qui joue. Donc, tu vois, le son ne s'arrête nulle part. Donc, voilà, il faut savoir ça. Après, donc, ça, c'est le soir, mais l'après-midi, quand on parlait de l'Ubu tout à l'heure, maintenant, le Liberté, c'est gratuit pour le public, par exemple. Tu vois, là, c'est plutôt sur Liberté, c'est une jeune scène française. Après, sur le bus, et voilà, c'est des concepts différents avec des choses beaucoup plus acoustiques.
Donc tu disais gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir son pass pour les trans, n'importe qui peut y aller, non ?
Ah ben si, au Liberté et à l'Ubu, les après-midi, c'est gratuit, ouais, donc les gens peuvent rentrer, c'est-à-dire coucou,
Liberté,
c'est nous.
C'est en centre-ville, c'est ça ?
C'est en centre-ville, ouais. Donc c'est une salle où il y a des grands concerts, si tu veux, donc là ça devient une salle qui peut faire 6 000 et là on va la réduire à 2-3 000, quoi, okay. Ouais.
Okay.
C'est pas mal déjà. Hein,
ouais,
tu vois.
Bah, ouais. Ouais, et puis gratuit, c'est ultra.
Pour les groupes, c'est super.
Cool,
tu vois.
Ouais. Surtout des groupes qui
sont jeunes, qu'on aide aussi, tu vois, parce qu'on accompagne des artistes, des groupes rennais, tout ça, donc qu'on fait travailler voilà, dans l'Ubu, au niveau du son, des éclairages. Voilà. Voilà, on les aide aussi à s'inscrire à la SACEM s'ils l'ont pas fait.
C'est un travail de SMAC ?
Ouais, c'est
vous faites.
On est une SMAC. L'Ubu, c'est une SMAC, ouais, tu vois. Après, c'est le travail de toute l'association ATM, Association Transmusicale, toi, avec tous les gens qui y participent. Ouais. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que, parce que tu nous as dit que tu étais attaché à l'idée que ça crée des liens entre les musiciens, que ça pouvait changer une vie même, pour ceux que vous accueillez.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'au-delà de ça même, votre place à la fois dans la ville vis-à-vis du public, vis-à-vis des artistes locaux aussi que vous pouvez accompagner en tant que SMAC, etc. Est-ce qu'il y a presque, on pourrait dire, une vocation sociale autour de tout ça, ou c'est un mot trop fort ?
C'est peut-être un peu trop fort. Enfin, il y a beaucoup de musiciens, c'est vrai, à Rennes, T'as des lieux comme le Jardin Moderne où les gens voilà, peuvent répéter, travailler, faire des petits concerts. T'as l'Antipode qui est devenue une très belle salle maintenant, qui est aussi une SMAC, tu vois, donc avec une salle plus grande qui peut faire un peu plus de 1000. Voilà, il y a des lieux, il y a le MEM qui est bien aussi, il y a la salle Omnisport et l'étage. Et puis il y a tous les bars de Rennes où il y a des concerts sans arrêt. Enfin, tu vois, c'est une ville, chaque jour, tu vois, surtout en fin de semaine, t'as peut-être 15 événements, quoi. Tu vois, c'est un truc de dingue, mais vraiment, c'est incroyable, quoi.
Et toi, t'as l'impression, avec votre association, etc., de participer à la vie de cette ville, franchement ?
Bah oui, bien sûr. Puis après, j'ai les associations qui travaillent avec nous, on les accueille aussi à l'UBU, voilà, on est vachement près de la scène locale. Après, on peut pas tout faire, et puis c'est des choix artistiques. Moi, il y a des groupes qui m'intéressent pas, d'autres qui m'intéressent, c'est-à-dire, tu vois. C'est important, voilà. Puis les trans, c'est un grand rendez-vous aussi, tu vois, parce que bon, il y a nous, mais il y a aussi Bar en Trans pendant les trans, donc il fait autant de groupes que nous. Mais c'est devenu un festival maintenant qui se passe, si tu veux, que nous on gère pas du tout, mais qui se passe dans le centre-ville de Rennes, dans les bars, si tu veux, pendant 3 jours, tu vois, avec 80 artistes aussi, quoi, tu vois, si pas
qui
plus.
Qui profitent quand même aussi du rayonnement.
En même temps que les transmusicales, du coup.
C'est en même temps, oui, ça aurait pas d'intérêt que ça soit en dehors, tu vois, mais...
Ouais, tu profites un petit peu de
l'aura du
truc.
Parce qu'au début, on avait créé ça dans les bars, si tu veux, on faisait des choses dans les bars, plus à la salle de la Cité, la salle dont on parlait au début, 2000 places, et comment te dire, à un moment, ben on ne pouvait pas, parce que financièrement, on payait des groupes, on n'avait pas de quoi les payer pour jouer dans des bars. Et voilà. Et après, il y a une association qui s'appelle Trois Petits Tours qui a repris l'événement et qui en a fait quelque chose de très chouette. Alors, ils sont très, très sur la scène française. Donc, ils ont aussi des aides, des tourneurs, des maisons disques pour présenter des artistes français comme en showcase, quoi, un peu, tu vois, comme au Mama, par exemple, à Paris.
Ouais,
tu vois. Sauf qu'aussi, à Rennes, on a des gens de festivals étrangers, des médias, etc., qui viennent aussi là pour découvrir ce qui se passe dans les bars. Tu vois, les gens, ils vont faire les deux. Ils vont faire bar en trans tout à l'heure, puis après, on va au Parc Expo, ou tu vois, ils vont faire des choix d'après les artistes qu'ils ont envie de voir, quoi.
C'est cette approche, cet ancrage à la fois géographique et, j'ai envie de dire, presque un peu humain aussi, dans l'accompagnement que vous pouvez proposer et tout. Est-ce qu'il a des équivalents en France, à ta connaissance, des festivals qui ont cette dimension-là aussi, comme vous ?
Je sais pas, en tout cas, qui mêle les deux, pas vraiment, mais bon, je pense qu'il y a des festivals, ils font aussi ce qu'on fait, nous, de l'action culturelle, tu vois, c'est-à-dire des concerts pour des jeunes ados, ou des concerts en prison, enfin, tu vois, les choses qu'on fait déjà pendant l'année. Et, comment te dire, oui, je pense qu'il y a d'autres endroits où on le fait. Après, Rennes, c'est vraiment une ville particulière, quoi. Tu vois, t'as un festival, et puis t'en as un autre en plus, tu vois, voilà, donc, en prime.
C'est le bonus.
Mais,
c'est
oui,
le bonus.
C'est ça, enfin, tu vois, c'est difficile. Et en plus, il y a le off du off, parce que, tu vois, même si t'as c'est un peu le off.
Il y a plein de layers,
oui,
de couches.
Bah, oui, il y a des gens qui peuvent faire ça, quoi, tu vois. Voilà, avec, dans d'autres bars, quoi, d'autres endroits.
Je pense que c'est ça qui est important à noter, en fait, c'est que les transmusicales, c'est l'événement sur 4 jours, mais en fait, toute l'année, il y a une asso qui bosse et qui propose des trucs. Tu vois, parce qu'on pourrait penser que toute l'année, ça travaille pour pouvoir faire le festival en fin d'année, mais en fait,
c'est plus que ça, bien sûr. C'est sûr que c'est un travail de longue haleine, mais je veux dire, on est vraiment dans la musique toute l'année, quoi. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un mois où on ne fait pas des choses, quoi, de toute manière. Ouais.
Et l'asso en elle-même, c'est combien de personnes à peu près qui bossent
Tu me demandes.
Estimation.
Oui, non, ouais, parce que tu vois, là je sais pas, on va être peut-être, je sais pas, une quinzaine dans les bureaux. Et puis après, il y a tous les renforts, je veux dire, 3 mois avant les trans.
Ouais.
Tu vois, là, il y a beaucoup de people. Et puis quand arrive le festival, on est plusieurs centaines, quoi, parce que, tu vois, entre les cuisiniers, la sécu, les techniciens, faut monter, démonter, plus les gens de plateau, les éclairagistes, voilà, les runners pour aller chercher les groupes et revenir. Enfin bon, c'est une grosse organisation, c'est beaucoup de travail. Ouais.
Ça serait quoi les... peut-être qu'on terminera cette partie avec cette question. Sur les 45 ans de votre existence, les grands changements, les moments où vous avez passé peut-être un cran, où c'est devenu encore quelque chose de nouveau.
Tu vois,
je pense par exemple à 91, où tu étais bénévole jusqu'en, de 79 à 91, t'es bénévole toi. Oui. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de gens.
Bien sûr. Ouais.
Et 91, il se passe quand même une forme de professionnalisation. Est-ce que par exemple ça c'est un moment important? Il y a eu d'autres moments importants comme ça?
Pour moi, les moments, je les vois plutôt dans les changements de salle, quoi. Tu vois, au début, on était vraiment à la salle de la Cité. Après, il y a eu l'UBU, le Liberté. Après, on a commencé à faire des rêves aux Libertés dans les années 90, tu vois. Rêve aux Transcendes, Après, on est parti au Parc Expo avec Planète, qui était un truc incroyable, phénoménal.
C'est quoi Planète, pardon?
Planète, c'était une journée qui était le samedi, donc des trans musicales. La programmation, je l'avais faite avec Laurent Garnier, c'est lui qui avait amené les DJ, puis moi j'avais amené des groupes live. Et puis, comment te dire, ça commençait à 8h, à 20h le soir, et ça se terminait à midi le lendemain.
Ah oui.
Oui, oui. Dans deux salles différentes, il y avait de la techno, de la house là, tu vois. On a fait venir Master at Work, des gens comme ça. Il y avait Derek Carter qui était incroyable. Voilà, et qui j'avais fait quoi? Les Propel. Non, ça c'était une autre fois. Il y avait Chemical Brothers, j'avais fait venir les Chemical Brothers, tu vois. Ouais, c'était bon. Premier album là.
Prodigy aussi, oui. Est venu au trans, non?
Prodigy, c'était l'année d'avant, ouais. Edney to Technique. C'était absolument exceptionnel. Putain, quel concert la vache. Waouh, terrible, terrible.
C'est ouais. Et pour le côté, alors je sais que toi c'est, ça t'intéresse moins, toi c'est l'artistique avant tout, mais quand même je suis sûr que t'as un regard là-dessus aussi, sur le côté professionnalisation, sur le côté on se structure, on gère mieux les finances,
ouais. Oui, mais on l'était déjà, chacun avait un peu sa partie, si tu veux, dans l'équipe. Donc Béa était plus sur, le côté subvention, etc., les rapports techniques, etc., plus, et puis Hervé plus sur la com. Chacun était un peu à son niveau, plus Titi en technique, enfin on avait des gens vraiment très très performants, puis on avait des aides aussi, de la ville de Rennes, du ministère qui commence à mettre des sous, ça nous a permis un peu de grandir, tu vois, et d'évoluer, et puis des fois on a rencontré des gens qui nous ont fait découvrir des choses, et voilà, c'est comme ça qu'on a fait la première Evo Trans avec Manu Casana, sur une musique qu'on connaissait très peu ici, tu vois, et on a commencé à faire venir des DJ, des groupes incroyables, et genre la musique a changé, puis le hip-hop est arrivé aussi, tu vois, on a commencé dans les quartiers et tout. Donc c'était vachement bien, il y avait une énergie, enfin il y a toujours si tu veux, sauf qu'à l'époque on n'était pas un peu tout seul, mais un peu quand même, toi à faire des choses. Mais après je veux dire, ça qui est bien, c'est que ça donne envie à d'autres gens de monter son asso. Moi ça me donne envie d'être DJ, moi photographe, moi musicien. Après t'as des festivals, si l'Astropolis, ils vont dire, nous on est les enfants des trans, on est à Planète et machin, et après on a fait Astropolis à Brest, tu vois, ça, voilà, pareil à Caen, le Caveau, ça leur donne envie. Alors après les festival électronique, tu soulèves une pierre, il y en a deux qui sortent. Hein, tu vois. Non, mais c'est vrai, les gars, vous êtes d'accord, il y en a beaucoup, c'est un truc qui marche bien. C'est très sympa, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Les gens ont découvert des choses, et puis après, ils sont pris en main pour aller dans une direction ou dans une autre. Moi, je trouve que c'est formidable, quoi, tu vois.
L'émulation et tout, hein, c'est cool.
Ouais.
Il y a un truc génial que vous avez fait, c'est... avec votre longue histoire, vous vous êtes dit, il faut archiver un peu tout ça quand même. C'est une forme de patrimoine.
Oui.
Et vous avez créé, alors c'est même accessible d'ailleurs en ligne, je vous invite à aller voir, Mémoire des trans.
Mémoire de trans, tout à fait, ouais.
Et où l'idée en fait c'est, alors on peut s'amuser même si tu veux, c'est trop trop bien. C'est-à-dire que chaque édition, tu peux retrouver chaque année depuis 79 et voir le line-up par exemple, voir des photos, etc. Et tout ça est accessible en ligne, c'est génial. Est-ce que par exemple, Daz, tu veux voir une année
Moi je suis né en 78, donc c'était trop tôt.
Ah oui.
Toi t'es né en quelle année toi?
87.
Eh ben voilà.
Quand on voit 87, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que Jean-Louis serait capable de dire, t'as l'air d'avoir une super mémoire, mais pas quand même à...
Non, mais pas des années.
Ouais.
Non, là, je suis très, très, très mauvais. Je suis incapable de sortir un truc. Mais enfin,
alors après, ça se trouve, on va rien connaître. Parce qu'en plus, 87, je pense que vous étiez encore dans le, tu vois, cœur noir, ça, tu vois, je connais pas. Europe, Mirou Trio, The Boogie Brothers.
Jazz. Ça, c'est bien. Boogie Brothers, c'est un peu comme, comment te dire, les Blues Brothers, tu vois.
C'est
habillé pareil, tout
Royal
en noir.
Royal Deluxe, Les Conquérants, Lisanne Elias.
Ouais. Là, il y en a pas qui sont sortis.
Non, ça, c'est régional, plutôt. Vas-y, avance un peu, ouais.
Marc Seberg, alors, on peut prendre des trucs, effectivement. 92,
les JO de Barcelone, là, allez hop.
C'était les JO de Barcelone.
Ah oui, la Dream Team.
Alors tu vois déjà, Philippe Catherine par exemple, tu vois, en 92.
Non, déjà.
Il est revenu après d'ailleurs, c'est une des seules artistes qui a fait deux fois le festival.
Ouais, c'est ce que j'allais demander justement. Est-ce que les gens peuvent revenir
Daft Punk sont revenus pour un truc spécial aussi, parce qu'ils avaient joué à l'Ubu la première fois et donc sont revenus après sur Planète 2, donc il y avait eux. Après, c'est des groupes il y a un groupe que j'adorais qui s'appelle Lady Jane, un groupe de Rennes, qui est très psychédélique et vraiment que j'adorais, donc je l'ai fait deux fois, mais les gens s'en foutent alors. Non, mais c'est dingue, il y a déjà des gens, il y a des groupes exceptionnels et des gens qui ont vraiment rien dans les oreilles, quoi.
Bah ouais, bah ça c'est le truc.
Mais bon, hein. c'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est dommage que y a
non, mais c'est vraiment extraordinaire. Réel, mais ouais.
Après, sur Catherine, c'est complètement ouais. dingue parce que vous le recevez en 92. Oui. Alors sur le site, on peut cliquer, voir des trucs, etc. Ouais. Et d'après votre site, ses débuts c'est en 91, c'est-à-dire qu'un an après ses débuts discographiques, ouais. vous le recevez. Quoi.
Bah regarde, ouais. Catherine, un jeune homme moderne, dont ce sera le tout premier concert.
Voilà. Et après, on l'a fait dans Luxor J'adore. On a fait la création à l'air libre, si tu veux, de Philippe Catherine avec. Avec cette formation-là, quoi.
C'est ouf. Ouais.
Alors, ouais, la même année, tu l'as pointé du doigt, 92.
Sonic Youth, ouais.
Sonic Youth.
Ah oui, Sonic Youth.
Ah oui, c'est vrai.
C'était la soirée des grandes guitares. Je me rappelle, il y avait Sugar, voilà, il y avait Sonic Youth, il y avait Pavement.
Il se rappelle, c'est fou.
Ouais, et puis après, je ne sais plus les autres, là, mais...
Oui, les Last Poets aussi.
Last Poets, c'est un groupe de hip-hop. Mmh. Ouais, c'est les mecs qui ont inventé quelque part le rap en 69 à New York.
En Massilia Sound
System. Effectivement, 92 aussi. Alliance Ethnique, rigolo. Princesse Erika.
Sens Unique, c'est super.
Oui, les Suisses, bien sûr.
Laisse-toi aller, tu te rappelles ce single? Ils ont fait un single qui aurait dû cartonner incroyable, et puis évidemment...
Alors on peut faire un dernier petit jeu là-dessus, on peut regarder qui y avait il y a 10 ans. Là on est en 2024, on peut regarder en 2014
2014, vas-y.
Alors attends, je regarde, tac tac tac, en plus il y a toutes les affiches, elles sont jolies les affiches à chaque fois. Franchement, qui a eu cette idée? Franchement, c'est une super idée. De faire le site avec accessible toutes les éditions.
Ouais, ça c'est Béatrice qui voulait ça, c'était vachement bien, ouais. C'était beaucoup de travail, ouais.
Génial cette idée, ouais. Alors, donc en 2014, on a Kate Tempest.
Eh oui.
C'était très bien. Oui.
Non, mais
qui depuis a changé, effectivement. Oui. A fait une transition.
Ouais.
L'ISO. L'ISO qui est devenue une superstar internationale.
Oui, hein, tu vois, ça fait
une superstar temps. Américaine. Et elle était au Trans en 2014.
Bien sûr, ouais, c'est la première fois.
Vous l'avez bien ciblée parce qu'aujourd'hui, elle serait inatteignable, inaccessible.
C'est bien possible. Je n'ai pas trop suivi, mais j'ai vu que c'était vraiment
monstrueux. C'est l'une des grosses stars de la pop américaine.
Ah ouais. Elle est très, très sympa. Enfin, moi, j'ai un très bon souvenir. Et puis, il y avait une fille qui l'accompagnait aussi, qui faisait, entre guillemets, DJ, qui balançait les sons, qui était très chouette aussi. Elle était contente d'être là. Et voilà, elle était seule sur scène autrement. Hein. Tu vois,
je suis toujours là sur 2014. L'ISO, j'en reviens pas, c'est complètement fou.
Mais il y a des trucs comme ça.
The Avener, Rhône.
Oui, quand même. C'est pas mal.
Non, je continue un peu à regarder. Jeanne Haddad, pas mal ça aussi, Jeanne en 2014.
C'était en création à l'air libre.
C'est tôt en plus. Oui, on a reçu Jeanne.
C'était juste avant la sortie du 10. Si tu veux, le 10 même est sorti 6 mois plus tard, mais j'avais écouté 3-4 morceaux. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé, et donc on a essayé de faire le concert à l'air libre. Donc c'est vraiment, ouais.
Alors c'est marrant de voir des noms comme ça qui entre-temps ont explosé, mais c'est aussi marrant de se dire qu'il y a plein de noms, de groupes là.
Ah oui, il y a des gens qui disparaissent.
Rentrons dans cette deuxième partie où on parle vraiment plus de la programmation et de la place aussi des festivals un peu et des transmusicales dans la filière, de manière générale, dans l'émergence. C'est une super question, Sadas. Vas-y, est-ce qu'il y a des trucs...
Moi je constate, parce que là, tu vois, t'étais sur l'année 2014, il y a une cinquantaine de noms, tu vois. Et en fait, il y en a énormément... Ou même le nom me dit absolument rien, tu vois. Donc c'est se dire les gens qui sont sur une scène émergente, ils se retrouvent en festival comme ça devant des centaines, des milliers de personnes. Et après paf, tu vois ça.
Après ça se trouve en fait ils ont leur vie dans leur scène de niche entre guillemets avec un public fidèle et ça se trouve ils continuent. Mais juste c'est vrai qu'ils...
Ouais, du coup on.
Toi c'est un truc que tu te dis dans l'idéal t'as envie que ces gens après deviennent des stars entre guillemets.
Non, pas des stars, mais que t'arrives à vivre de ta passion. Ouais. Après il y a des gens ils partent sur autre chose puis. Un groupe, ça peut splitter aussi rapidement. Il y a des choses qui viennent, ils vont faire autre chose. Après, effectivement, il y a des gens qui disparaissent tout simplement, des groupes qui s'arrêtent. Le mec reprend sa vie entre guillemets normale de ça. Tu vois. Après, il y a des gens qui vont vivre des aventures plus longues avec sans être des stars. Donc, tu vois, mais pouvoir en vivre, jouer dans plein de pays. Il y a plein de groupes qui font ça. Tu vois. Après, c'est vrai que quand je regardais des fois des groupe qu'on joue ensemble, je dis putain, mais là, ils ont tous disparu, quoi, tu vois. Bon, enfin, des fois, c'était il y a 30 ans.
Donc, bien sûr.
Non, je rigole, mais.
Non, mais c'est vrai que quand tu fais le.
Bien sûr.
Quand tu regardes l'ensemble, en fait, le topo sur tous les artistes que vous avez reçus.
Après, je revois des fois des gens, par exemple, que je vais faire à l'Ubu, des musiciens français, tu vois, puis bon, t'as le chanteur, qui c'est son nom, puis derrière, t'as des gars qui accompagnent, tu vois, hop, qui... Voilà, et donc, et là, tu trouves... tu tombes sur des mecs, si tu veux, qui ont déjoué au trans avec leur groupe, par exemple, il y a 2-3 ans. Et maintenant, ils sont devenus musiciens pour d'autres artistes. Tu vois, c'est plus leur projet, c'est le projet de quelqu'un d'autre. Tu vois, et ça, il y en a pas mal quand même. Donc, ça veut dire qu'il y en a aussi qui arrivent à vivre de ça.
Ouais, bien sûr.
T'as eu des. Des artistes où tu t'es dit, quand ils ont fait leur presta au trans, tu t'es dit, oh, ça va devenir énorme. Et ça ne l'est jamais devenu. Ça a pu t'arriver, ça ?
Oh. Non, pas vraiment, parce que. Non, pas vraiment. Enfin,
ceux qui t'ont mis des claques en général derrière.
Ouais, ouais, non, ça. Ouais, ouais. Après, si t'as des trucs formidables, mais. Après, ça marchait. LCD son système, ça cartonnait après, quand même, ouais. Tu vois, mais. Ça, c'était vraiment au tout début, c'était vraiment terrible, quoi. Je me rappelle d'un groupe qui s'appelle Love Human, qui était incroyable. C'était un groupe américano-japonais, oh, putain, avec un DJ scratcher. Qui était, enfin, j'en ai fait quelques-uns des scratchers, mais quand même. Mais qui était vraiment super, super fort, quoi. Moi, j'ai des beaux souvenirs de concerts, surtout, tu vois. Puis de gens que tu rencontres. Puis les gens sont toujours tellement contents d'être là. Et de se voir les uns les autres. Et puis de rencontrer des Français aussi, des gens qui savent les accueillir. Tu vois, une fois, j'avais fait un groupe au trans, ça s'appelait les Dick Nixons. C'était un groupe assez rigolo. Il se battait presque à moitié sur scène. Il prend sa guitare, il la pète sur la gueule de l'autre. C'est un groupe de rock, si tu veux, sont un peu habillés en cow-boy. Et les mecs, dans leur vie, à eux, si tu veux, ils sont pompiers. Tu vois, okay. Dans leur vraie vie, et ils habitent Donaldsville, à côté de la Nouvelle-Orléans. C'est pas des bobards, hein, tu vois. Uh-huh. Et les mecs, donc, voilà. Donc, et ils étaient très, très, très drôles. Ouais. Ouais.
Et c'est pas compliqué du coup d'être en termes d'orga quand t'es à Rennes, ouais. Tous ces artistes qui viennent de l'étranger, qui donc arrivent certainement à Paris. Après, oui, faut oui. Gérer
à Paris,
le transfert.
Nantes, ouais. Mais même ouais. Avant, on allait les chercher et tout ça. Maintenant, quand on fait un deal financier, c'est voyage compris. Donc, okay. Tu veux, c'est le tourneur qui va se débrouiller à amener, comment dire, le groupe à Rennes.
Ok, c'est pas alors l'organe du festival.
Ouais,
de
avant, on faisait ça, tu vois, c'était un truc monstrueux. À s'arracher les cheveux, quoi. Ouais, ouais. Surtout avec les DJ, ouais, non, je préfère prendre l'avion de telle heure et pas celui-là, machin. Puis après, tu dis, putain, si le rate, on est mort. Enfin, ouais, bon, tu vois, ouais. Ça, c'est horrible, quoi, tu vois. Ouais, moi, à la limite, je préférais quand on gérait ça quelque part. Mais bon, maintenant, on fait des deals comme ça. Donc, c'est mieux pour l'équipe aussi, tu vois, parce que ça change sans arrêt. Il y en a en plus. En moins, déjà, on gère tous les hôtels. Donc.
En parlant d'équipe, parce qu'on a compris que toi, tu es au cœur de la programmation. Tu es tout seul sur la programmation ? Non.
Non, j'ai un assistant maintenant qui est arrivé au mois de juillet. Voilà, donc à un moment, j'étais un peu
tout
seul.
C'est tout récent, seulement depuis juillet qu'il y a quelqu'un qui t'a... Sinon, pendant les 45 ans, c'était toi ?
Non. Il y avait Mathieu avec qui j'ai bossé, qui était mon assistant aussi. Il y a Ludo qui fait des coups de main. Enfin bon, on est je dirais 2,5, enfin 2-3, tu vois, un peu, mais...
Parce que pour donner une idée, là, l'édition qui va se tenir là en décembre... C'est 83 artistes, je crois, un truc comme ça.
Oui, oui, oui.
C'est colossal. Donc, il faut les programmer, ces artistes. Donc, toi, avec un assistant, en gros.
Oui, voilà. Mais lui, il arrive en juillet, donc il a amené sa patte, quand même, parce que lui, il est très, très branché musique électronique, Théo Muller, parce qu'il en fait aussi. C'est un excellent DJ, qui a fait deux fois les trans, d'ailleurs, avec Dal Béton aussi, dont il est le batteur, qui est un groupe assez rigolo. Et, comment dire... après, c'est comme ça. Après, il y a des choses qui arrivent de partout. Enfin, tu vois, c'est...
Parce que tu sais, on peut parler peut-être de l'épisode qu'on a fait avec Thomas Legon.
Ouais, bien sûr.
Donc, Thomas, il est sociologue. Mm. Il bosse aussi pour une asso qui s'appelle Filset, où ils ont, dans le 77, ils ont eu une salle. Et Thomas, en tant que sociologue, il travaille beaucoup sur des questions aussi du goût. Tu sais, d'où viennent nos goûts musicaux,
d'accord,
etc.
D'accord, ouais.
Et en fait, on a eu, avec son association, ils ont une super réflexion très intéressante où ils se questionnent sur leur programmation. C'est-à-dire, comment je fais en sorte aussi de ne pas rentrer complètement dans le jeu de parfois la hiérarchisation des goûts, de ce que la société aussi peut avoir comme rapport à se dire ça c'est légitime comme musique, ça ça l'est moins,
ah bon.
Etc.
Tu étais les cadres en fait.
Ouais. Il y a vraiment une réflexion d'ordre sociologique sur la.
Oui.
Et
même d'ordre social en fait.
Absolument. D'ordre social. Mmh. Est-ce que vous, la programmation, vous allez aussi parfois à l'encontre de vos goûts qui sont forcément aussi en partie subjectifs,
pas
etc.
Moi, non.
Ouais. Ouais, toi, il n'y a jamais un truc où tu t'es dit, moi, c'est pas ma cam, mais ça peut.
Il faut que ce soit quand même au trans.
Non.
Ok.
Non, j'ai même refusé des trucs que je savais qu'allaient cartonner. Ouais. Parce que je m'en fous, j'aime pas ça.
Ah, c'est intéressant, moi je m'attendais à un truc.
Je fais attention.
Ouais.
Non, je sais pas, tu défends des artistes. Après, je te dis, moi je fais des rendez-vous à Paris avec des journalistes et compagnie. Je leur fais écouter la prog, j'ai un mot sur chaque artiste qui va aller, sur les 80. Ils sont tous là, ils prennent des notes, etc. Tout ça, c'est bien. Mais je veux dire, si tu les aimes pas, tu peux pas les défendre. Tu vois. Ou alors tu fais autre chose. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui font des festivals, ça veut pas dire qu'ils aiment à 100% les groupes.
Non, mais moi. Par exemple, quand tu t'entoures d'autres personnes...
C'est mais c'est pas grave, c'est moi qui ai le final cut, de toute manière.
D'accord. Tu vois, donc, il est sympa, l'assistant, mais...
ils font des propositions, tu vois. D'accord. Donc, ben, c'est normal, enfin, tu vois.
Et alors, pour booker donc, 83 groupes
oui, oui.
en sélection finale,
oui, oui.
ça veut dire qu'il y en a combien qui, ont été, qui sont passés au tamis, en fait, qui ont été
écoutés. Ben, on peut pas compter ces choses-là, tu veux, parce que quand tu reçois des mails avec des trucs tous les jours, ou des...
Voilà, mais toute l'année, pas... en fait, t'as des...
Ah ben, je reçois des mails tous les jours, ouais.
C'est
les
quoi
jours,
les canaux ouais. principaux de découverte ? C'est les gens qui te sollicitent, via mail, machin, etc.
Il y a ça, il y a le travail des agents, dont c'est le boulot, si tu veux t'envoyer ouais, du placer, son, parce qu'il y a des choses, le disque, il n'est pas sorti. Après, je vais chercher des disques, j'ai toujours mon petit disque à Rennes, chez Blindspot, tu vois, j'ai cherché des nouveautés, ou à Paris, chez Gibert. Mais autrement, je te dis, j'ai lu beaucoup la presse, donc toi, tu vois, quand il y a des trucs comme ça, voilà, je vais... Et comment te dire, voilà, je vais aller sur des sites aussi, enfin, tu vois, t'as plein de trucs. Dès que j'ai un truc qui m'interpelle, paf, je vais voir ce que c'est, tu vois.
Oui, parce que
après,
là, on parle...
Mon assistant m'envoie des trucs aussi maintenant. Tiens, écoute ça, Jean-Louis. Toi, ça peut être un concert, soit à Lubu pendant l'année, soit, voilà, un truc pour les trans, quoi. Ben, les trans, c'est les trans, quand même.
Tu vois, parce que tu vois, on parle des agents, on a reçu des agents dans le Tempo, justement, qui nous parlaient de leur métier, mais en fait, là, on parle d'émergence. Ouais. Donc, quand t'es émergent, bah, souvent, t'es pas représenté, t'as pas d'agent.
Non, mais c'est l'une des premières étapes.
Il y en a qui n'en ont pas avec toi. Tu vois, c'est ce que je cherche pour tous les groupes, même de Rennes en ce moment, parce que avant même d'avoir une maison 10, c'est un tourneur. Moi, je pense maintenant, parce que maintenant, c'est là où ça se passe.
Ouais.
Les maisons 10 se disent souvent pas, tu vois, un peu au merge, mais bon, c'est sur scène. Donc, si t'es un bon tourneur, c'est une chose qui peut vraiment t'aider.
Et c'est vrai que l'attaché de presse, c'est aussi...
Ça l'est aussi.
Alors après, il faut tomber sur le bon attaché de presse. Parce
oui,
que sinon
aussi dans le projet.
Bah parce que quand ton argent est limité, tes budgets sont limités, mettre de l'argent dans un attaché de presse où le boulot va pas être si bien fait...
Oui, oui. C'est sûr qu'avoir les sous pour le faire, il faut déjà tourner un peu. Hein.
C'est ça. C'est pas la priorité en théorie, non. Mais c'est vrai que c'est un plus, quoi, non négligeable.
Ah oui, je suis bien d'accord.
Bah déjà, t'es pas dans la boîte mail de Jean-Louis si t'as pas d'attaché de presse. Donc c'est embêtant.
Il y a un truc très intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que... ça a à la fois une très grande valeur, cette subjectivité, le fait que toi tu sois au cœur de la programmation depuis si longtemps, et ça participe forcément à l'identité du festival.
Ben oui, bien sûr.
C'est sûr.
Oui.
Mais on pourrait aussi, avec un regard extérieur, se dire, on peut y voir un défaut quand même à ça, c'est de se dire, bon bah Jean-Louis, il a certainement son réseau, il connaît certainement des gens, etc. Et peut-être que dans sa programmation, comme il est un peu tout seul, bah il va favoriser des gens qu'il aime bien, quoi.
Ouais, ça c'est sûr.
C'est ce qu'il nous disait.
Mais bon, ça peut être gênant aussi de se dire, bah, il offre peut-être pas la chance à tout le monde de manière égale.
Et alors, je suis pas dans le.
Très bien, c'est assumé.
Ouais. Je suis pas dans la démocratie participative.
Attends, Rennes c'est socialiste, mais quand même.
Ouais, pas exagérer.
Non, mais je sais pas. Tu décides de faire ça. Je veux dire, c'est d'abord pas pour faire plaisir aux autres. Toi. C'est d'abord pour me faire plaisir à moi.
C'est pour te faire kiffer. Ouais.
Ouais. Tu le vis comme ça.
Mais, je le vis comme ça. Si ça me fait pas plaisir, je vois pas l'intérêt. Je fais autre chose. Quoi, toi, je préfère faire à manger. J'aime bien cuisiner. Là,
au moins c'est
clair. Ouais, absolument. Ouais. Absolument. Et pour l'international. Comment tu... alors, tu avais pris l'exemple du groupe malgache, comment tu l'as découvert.
Easy Brain.
Ouais. Comment tu arrives? Parce que là, je crois qu'il y a... je sais pas si c'est 40 pays sur cette édition, zone géographique un peu différente.
J'ai vu parler d'un guitariste tibétain ou de trucs comme
Non, il vient d'Azerbaïdjan.
Azerbaïdjan.
Voilà.
Comment je trouve
Ça, c'est sur un disque du label Bongo Joe.
Okay.
Tu vois, qui a un label suisse, qui est de Genève, voilà, que j'aime beaucoup. L'année dernière, il y avait une dizaine de groupes, d'ailleurs, de ce label-là. Il y en a que trois cette année, mais c'est quand même pas mal, hein, quand même. Mm-hmm. Et voilà, ils font des choses remarquables. Et ils ont sorti deux compilations sur des guitaristes de musique d'Azerbaïdjan. Alors, le mien s'appelle Rahman Mamadli. Il y en avait un autre avant, mais qui est décédé. Et donc, j'ai demandé à mon copain Cyril, qui fait partie d'un groupe aussi, qui s'appelle Cyril, vous connaissez peut-être, qui me donne un contact sur Rahman Mamadli. Donc je l'ai eu et donc voilà, on essaie de le faire avec un agent français, un agent allemand et Rahman qui est chez lui, qui doit aller chercher son visa donc à l'ambassade de France à Bakou. Voilà, et je n'en sais pas plus au moment où je vous parle là maintenant.
Parce
tout de suite.
Que là, en plus, on se heurte à la géopolitique.
On a eu des soucis sur des groupes africains à l'époque, vraiment. C'est pas facile.
Au regard de ce que tu nous disais sur ton rapport un peu à la filière, aux autres festivals, etc., je ne sais pas si tu auras des choses à nous dire, mais je suis sûr que tu as quand même un petit œil là-dessus. Je suis sûr que tu as conscience que dans le chemin, entre guillemets, de l'émergence, un artiste français, il a envie de se faire connaître. Bah, mine de rien, quand on connaît un peu la filière, on sait qu'il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que le Mama, les Inouïs, les Franco, les trans, il y a quand même une espèce de schéma qui se dégage. Tu l'observes, ça, quand même.
Oui, ça, parce qu'il y a beaucoup de professionnels aussi qui viennent. Et, toi, puis tu as des groupes qui sont aidés par des lieux aussi. La coopérative de mai, pour certains. Tu vois, il y a des aides régionales, etc. Tout ça. Donc, c'est un peu un passage obligé pour certains artistes français, quoi. Voilà, après, les artistes français, quand ça marche bien, tu vas les retrouver dans tous les festivals. Heureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui tournent à l'étranger. Donc, si tu ne tournes pas, effectivement... C'est pour ça que les gens disent « Ah, c'est genre la même prog sur tous les festivals d'été en France. » Mais tu es obligé d'avoir une partie où c'est la même prog. Sinon, les mecs, ils n'ont pas de quoi vivre, sans déconner, quoi, tu vois. Que ce soit des moyens, des petits, même des gros. Après, tu peux aller tourner, si tu chantes en français, tu peux aller tourner un peu en Suisse, faire deux, trois festivals, la même chose en Belgique, un peu de Canada, puis c'est mort. Tu vois, donc moi, je crois que c'est une aide aussi à la création française, tu vois.
Je pense qu'on peut passer à la dernière partie, Daz, parce que là, on a parlé de la programmation, et qui sont... La dernière partie, je voulais faire, tu vois, discuter un peu des défis quand on a un festival, qu'il soit économique, qu'il soit technique, qu'il soit écologique aussi, sociaux, etc. Parce que,
d'être en phase, en fait, avec le monde dans lequel tu t'inscris, quoi.
Ouais. Ça, justement, ce que dit Daz, être en phase... Avec aussi l'époque et tout, c'est un truc important qu'on a un festival.
Surtout quand il a 45 ans.
Oui, bien
sûr,
il faut faire attention, je veux dire, au monde qui nous entoure et faire en sorte qu'il soit le mieux possible. Mmh. Vois-tu, donc c'est vrai que, par exemple, sur les trans, on travaille beaucoup le bio, tu vois, on fait attention à l'utilisation des déchets, à plein de choses. Là déjà, on propose aux gens de venir plutôt en vélo au Parc Expo, tu vois, avec une piste cyclable vraiment bien définie, parce que le retour peut être la nuit, un endroit où on peut les garer. Tu vois, à chaque fois, il y a des choses un peu nouvelles qu'on fait, tu vois. Donc,
Et c'est de votre fait ou c'est par exemple des suggestions relativement suggérées quand même de la municipalité qui dit « bon les gars, on aimerait
bien ».
Non,
la municipalité n'a rien à voir là-dessus, c'est l'équipe des trans qui était là-dessus, donc tu vois, Béatrice, surtout, elle est partie il y a 2 ans pour s'occuper de la culture au niveau de la région Bretagne, si tu veux. Mais autrement, Erwan Guadec, aussi co-directeur du festival, si tu veux, lui, c'est sa partie. Ouais. Toi, maintenant, par exemple, quand je fais venir un groupe de loin, on va essayer de lui trouver des dates à côté, tu vois, par rapport à l'empreinte carbone. Enfin, tu vois.
C'est cool, c'est-à-dire
pas mal. Alors qu'avant, j'étais le roi de l'exclusivité. Moi, j'ai dit, t'es chou chez moi, puis point barre, hein, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai.
Est-ce qu'il y a une pratique encore dans beaucoup de festivals, le côté
je sais pas, en tout cas, je peux comprendre que tu veux une exclusivité sur les têtes d'affiche. Toi, tu fais un gros truc, t'as pas envie que ça joue à 300 bornes, tu m'excuses, tu vois, quand tu payes, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros, tu vois.
Oui, parce qu'il y a des cachets qui ont explosé.
Parce qu'il faut recontextualiser peut-être un peu pour les gens qui connaissent moins cet univers, c'est que, évidemment, la question de la pollution, de l'environnement, etc., est importante aujourd'hui, ça je vous apprends rien. Et dans le cadre de la musique, l'un des trucs quand même qui est pointé du doigt régulièrement, c'est le spectacle vivant. Parce que, notamment à travers le transport c'est un impact monstrueux, plus que le streaming et compagnie, etc., par exemple.
Encore que.
je crois qu'il y a eu des espèces de modèles où ils ont tenté de calculer.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est opaque, c'est compliqué en réalité. La certitude, c'est que le spectacle vivant, et surtout, encore une fois, le transport pour acheminer le public, surtout, c'est un vrai problème, globalement. C'est, parce que, toi, tu dirais que c'est... à partir de quand vous avez commencé vraiment à vous impliquer dans ces questions avec les trans?
Ça fait, je veux dire, plus de 15 ans, peut-être 20, tu vois. Déjà avec la création des navettes, avec la ville de Rennes, donc tu vois les...
C'est-à-dire pour acheminer les gens depuis le centre-ville,
voilà,
en gros.
Ils prennent pas la voiture, etc. Et donc ça, c'est un truc qui marche bien. En plus, comme les gens font la teuf quand même, c'est toujours plus prudent de pas prendre sa bagnole.
Il y en a toute la nuit, aller-retour.
Toute la nuit, tous les 5 minutes, c'est un truc de dingue, Donc ça, c'est important parce que ça, c'est des milliers de festivaliers qui le prennent, tu vois. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait dès le début. On a commencé vraiment par ça, quoi. Avec le tri, évidemment, des déchets, tout ça, des trucs recyclables.
Tu te rappelles, c'est quand à peu près, ça?
Non, je n'ai pas la notion du temps, tu sais. Donc,
ça fait 6 heures qu'on enregistre.
Ah bon? Non. Ouais, tu vois, donc...
D'accord, et même ce truc-là, des navettes, en fait, donc c'est vous qui êtes à l'initiative.
Tout à fait. Avec des partenaires, évidemment, des bus rennais, tout ça, tu vois.
Pour eux, ça fait de la visibilité aussi, c'est cool.
Puis ils aiment bien, les gars.
Carrément.
Il y a de l'ambiance.
Dans les émissions.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de communication et d'image, quand même, en tant que festival, de se dire, on ne peut pas s'emparer de ces questions pour notre image publique. Les gens ne comprendront pas.
Je sais pas, enfin, en tout cas, t'essayes de faire des choses par rapport à l'environnement, donc c'est important aussi, tu vois. Je veux dire, il y a aussi les risques. On a les Catherinettes aussi qui sont là, qui vont se balader parmi les gens.
Sexistes et sexuelles.
Voilà, ouais. Tout à fait. Enfin, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles on peut aider, etc., à faire en sorte que tout se passe bien pour le public, les artistes, etc. Tu vois, et ça, c'est une chose qu'on fait pendant l'année aussi. Et, je trouve que c'est important.
Mais il y a... Parce que, en fait, on peut être... avoir l'esprit le plus ouvert du monde.
Oui. Ouais,
mais je veux dire, il faut que quelqu'un nous en parle de ces trucs-là. Je veux dire, c'est pas naturel forcément pour des gens de se dire...
S'intéresser au débat public, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la société,
non, mais ça veut dire que vous êtes super bien conseillé, en fait, parce que tous les trucs que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que des choses qui sont importantes, tu vois, et qu'il faut effectivement prendre en compte.
Bien sûr, tout à fait.
Et je me dis, alors c'est ça qui explique peut-être que le festival, ça fait 45 ans qu'il existe, tu vois, parce que moi, j'ai des souvenirs plus récents de festivals avec beaucoup de gens qui vont dedans, et puis on se rend compte qu'en fait... c'est un merdier pas possible à l'intérieur parce que justement il y a rien qui est fait pour protéger les festivalières ou ce genre de trucs. Donc je me dis
ils font un truc intéressant. Alors vous avez mis en place une safe zone par rapport aux violences sexistes et sexuelles depuis 2021 avec donc l'association Les Catherinettes. Il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, je n'ai jamais entendu parler, c'est une application. Je crois que c'est en 2022 que vous l'avez mis en place. En fait, à tout moment, on peut dire je suis en danger, voilà, avec géolocalisation, et quelqu'un vient, etc.
Là, on a aussi des. C'est assez nouveau, des gens qui sont des gens qui accompagnent des personnes qui sont malvoyantes pour leur raconter quand ils sont au parc ou dans n'importe quelle salle. Qu'est-ce qui se passe sur scène, etc. Tout ça, tu vois.
C'est les souffleurs d'images.
Oui, c'est ça. Ah, voilà.
C'est pas mal, ça.
C'est chouette. Hein, tu
même
vois,
le nom est cool.
Et c'est intéressant parce que je me suis demandé si... Alors là, c'est les personnes malvoyantes.
Oui,
s'il y avait aussi un dispositif pour les personnes malentendantes.
On a des systèmes, si tu veux, de choses pour sentir les vibrations qui sont dans les salles.
Intéressant.
Oui, oui.
Parce que du coup, on disait que parce que c'est ça qu'il faut noter aussi, c'est que là, le festival, du coup, il a plusieurs endroits dans la ville de Rennes. C'est pas un truc enclavé où à l'intérieur tous les festivaliers sont là. C'est-à-dire que les gens sont amenés à se balader
absolument
en dehors des endroits propres du festival pour arpenter la ville de Rennes.
Et, tout à fait.
En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est en termes de responsabilité de la part des organisateurs du festival, puisque le truc est en zone ouverte. Et que quelqu'un qui assiste à un concert après peut aller décider d'aller dans un bar boire un truc arpenter les rues de Rennes. Vous ressentez quand même une responsabilité pour faire en sorte que la soirée de cette personne-là qui a passé la journée dans le festival se déroule du mieux possible. Enfin, je veux dire, comment...
Attends, les gens font un peu ce qu'ils veulent aussi, si tu veux.
Ouais, bien sûr.
Je sais pas, à partir du moment où ils sont dans les lieux dont on est responsable, on fait en sorte que tout se passe bien, tu vois. Voilà. Nous aussi, on a un truc, comment ça s'appelle, capitaine de soirée, par exemple. Toi, les gens, ils viennent. Ouais. Et puis, comment te dire, ils donnent les clés de leur voiture, par exemple, s'ils viennent en voiture. On les met là. Et puis après, quand les gens y partent, le mec qui va conduire, on le fait souffler dans un ballon.
D'accord,
et si c'est nickel, on lui donne les clés et on lui offre un cadeau.
Ah ouais.
Tu vois, ça s'appelle capitaine de soirée.
C'est Sam.
Mais oui, non, mais tu vois, c'est des choses aussi, qui sont peut-être des petites choses, c'est pas tout le monde, mais il y en a pas mal qui suivent ça, si tu veux, tu vois. Mais c'est aussi leur vie qui en dépend. Enfin bon, tu vois, il y a plein de choses, tu vois, mais bon, à l'intérieur des sites, on a des gens qui sont là pour faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, on a des accès pour les gens qui sont au fauteuil, etc., tout ça, enfin, il y a plein de choses, quoi.
Moi, je ne suis pas un expert pour pouvoir juger, mais de ce que je vois, en tout cas, vous communiquez bien sur vos actions. On a l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience, qui, j'imagine, a aussi certainement ses limites. Sur le transport, par exemple, j'imagine que les navettes, ça ne règle pas tout. Je ne sais pas si vous faites
une estimation. Non, mais ça règle quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui les prennent. Ouais, vraiment, une grosse partie du public.
Oui, j'ai vu à peu près 70% des festivaliers prennent les...
Tu vois, c'est énorme.
C'est pas mal, quand même.
C'est énorme.
C'est énorme. Parce que
avant ça, du coup, ça veut dire que à Rennes, c'était un bordel avec les voitures, les machins.
Oui, c'est ça. Les gens prennent les voitures, tu vois. Parce que des fois, il y a aussi des choses qui se passent au Parc Expo, pas aussi gros que nous, mais dans des halls, des foires ou tu vois des trucs comme ça. Et je sais pas si je suis pas sûr qu'il y ait des navettes, quoi. Donc ça veut dire que les gens prennent leur voiture, mais c'est pas un truc qui s'amène à 6h du matin. C'est plutôt la journée, tout. Mais
ce qui change aussi certainement, c'est le fait que Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, les festivaliers, combien sont de Rennes, vraiment, à peu près le pourcentage, ou vraiment de, à quelques kilomètres à la ronde? Est-ce que ça fait venir beaucoup de gens de l'autre bout de la France, voire de l'étranger?
Ouais, on a pas mal de gens qui viennent de partout, surtout sur le week-end. Le jeudi, ça reste vraiment Rennes-Rennais, quand même, tu vois, donc voilà, donc c'est un peu moins de monde, mais il n'y a pas le gros hall non plus, donc c'est plutôt bien, quoi, tu vois. Et puis sur le reste, vraiment, on a des Parisiens, on a des Belges, on a des Anglais, enfin, voilà, il y a des enquêtes qui ont été faites à un moment, là, c'est quoi, je crois, 2 ans qu'on n'a pas fait sur le public, parce qu'on en fait, tu vois, sur l'âge des festivaliers, des trucs, voilà, qui vient, là. Tu vois, si on fait
parce que le vrai
aussi,
défi, mais... j'imagine qu'il est là, c'est-à-dire que proposer aux Rennais de prendre la navette depuis le centre-ville, c'est génial, mais le grand défi va être sur les gens qui viennent de loin, quoi, parce que c'est là où l'impact carbone est...
Oui, après, tu peux laisser ta voiture dans des endroits, tu as des parkings aussi, tu vois, il y a... Mais... Moi, je trouve que les navettes, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Tu vois, donc... après, les gens peuvent se garer pas très loin du parc, et puis de manière au parc aussi, tu vois. Mais c'est sûr que c'est... les gens, ils font la fête, quoi. On est en Bretagne aussi, donc il faut faire attention, quoi.
Non, tu vois, mais la question de l'alcool, bien sûr. Mais prendre la voiture tout court aussi, si tout le monde fait pareil, on sait que c'est un problème d'un point de vue écologique.
Ah oui, tout à fait, ouais. Mais en plus, Rennes est une ville qui devient vraiment une... C'est un peu la nouvelle Amsterdam, vois-tu.
Ah oui,
c'est-à-dire que tout le monde est en vélo, quoi, tu vois. Et ouais, de plus en plus, donc putain, c'est plutôt pas mal, mais moi qui suis en bagnole, je veux pas voilà, ah non, parce que ça traverse par-ci, ah ouais, non, c'est très très dangereux.
Ah bah les cyclistes, on les connaît.
Ouais, non, mais je te jure, les trottinettes, tout ça.
Le dernier point dont on n'a pas parlé sur ces questions un peu d'écologie, etc., c'est vis-à-vis des artistes, par contre, qu'on fait venir.
Oui.
Alors, tu as évoqué un truc tout à l'heure, mais comment, pareil, tu disais, quand tu prends un artiste, tu essaies de faire en sorte aussi qu'il y ait un circuit derrière, c'est-à-dire.
Oui, tout à fait. Quand on peut.
Mais globalement, c'est quoi un peu les actions, vous, en tant que festival, que vous mettez en place lorsque vous accueillez des artistes, les faire les venir de loin, etc. Est-ce qu'il y a une conscience aussi écologique à ce niveau-là? C'est difficile, parce que de toute façon, il faut qu'ils prennent l'avion et c'est tout, quoi.
Déjà, on va les accueillir, on va les garder pendant 3 jours, hein, tu vois, pour qu'ils ne soient pas jet-lag non plus avant de monter sur scène et que ça soit un concert pas bien du tout. Et après, on va essayer peut-être de trouver des dates. Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut avoir un bon tourneur, parce que nous, on va faire un jeune groupe, par exemple, américain, voilà, ils viennent de New York, etc. Mais je dirais, il n'y a pas une salle en Angleterre ou en Belgique ou ailleurs qui va mettre, mais je dis connerie, mais 1000 euros pour au moins pour les faire venir. Ouais. En sachant qu'eux, quand ils vont quitter Rennes, par exemple, pour aller à Londres, ça coûte des ronds, déjà. Ouais. Tu vois. Et après, c'est même pas le fait d'être payé ou pas, faut les héberger, les nourrir, enfin, tu vois. Mmh. C'est un truc qui va très, très, très vite. Donc, des fois, si le groupe n'est pas un tout petit peu connu, ou il y a un désir de faire venir à tel endroit, ça ne marchera pas. Tu auras pas à faire ce que tu veux. Personne ne mettra un sou sur un artiste inconnu. Voilà, c'est la base.
C'est les limites aussi pour vous.
Mais c'est les limites pour nous et c'est surtout pour le groupe, tu vois. Après, si le tourneur, il y a des gens, ils viennent, ils en profitent pour trouver. Il y en a, tu vois, ils savent très bien. Si on met tant de sous sur un truc, t'as l'agent anglais, il se frotte les mains, il dit c'est bien, ils ont payé les voyages New York, là. Et puis après, moi, je vais me faire quelques dates en Angleterre, et puis c'est bien, tu vois.
Ouais.
Ça, on le comprend. Et puis avant, je gueulais, j'ai dit putain, ils font des trucs avec notre pognon, enfin, tu vois. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Tu vois, les mecs sont finaux, hein, quand même, tu vois.
Ouais.
Je dis, mais quelque part, bon, maintenant, effectivement, c'est pas mal.
Donc, t'as changé de...
Ouais, j'ai changé un peu le... Ouais. Tu vois, j'ai changé ma mentalité. Et ça n'empêche pas que le festival restera toujours unique.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, que t'auras jamais la même programmation ailleurs. Donc, c'est bon.
Et puis vous échappez quand même à... On sait aussi qu'il y a deux problèmes dans le spectacle vivant, dans la musique live, dans les festivals. C'est un, l'augmentation des jauges sans cesse. Parce qu'en fait, qui dit augmenter les jauges sans cesse dit plus de gens qui se déplacent, qui viennent de plus en plus loin, etc. Et donc, c'est un vrai problème.
Ouais.
Et ensuite, c'est la recherche de l'artiste le plus renommé, de l'augmentation sans cesse des cachets. C'est un vrai problème.
Ouais.
Parce qu'en plus, on se fait concurrence entre festivals, etc. Donc, pour attirer le plus gros, les cachets augmentent sans cesse. Et pareil, ça donne un truc délirant. Plus les cachets augmentent, plus c'est des gros shows, plus c'est des gens qu'on fait venir de très loin avec énormément de camions.
Ouais, mais là, le fait d'être programmé au mois de décembre.
Mais là, on est sur autre chose, quoi, avec les trans.
C'est l'été, surtout. C'est une concurrence entre des pays, d'ailleurs, tu vois, parce que dans les pays de l'Est, ils ont souvent des sponsors d'alcool, de marques de cigarettes, qui font que les mecs peuvent vraiment mettre le paquet pour avoir un groupe anglais ou américain à un million de pounds, hein, enfin de dollars ou de. Tu vois, ça va très très vite, hein,
Vous êtes jamais heurté, vous n'êtes pas dans cette logique.
Du tout. Ce qui est bien déjà, tu vois. Mais nous, on paye bien tous les groupes, ce qu'on pense qui est normal. Voilà.
Tu vas avoir une idée de ça quand on fait une presta au trans, une idée globale de combien on paye.
Une fourchette.
Une fourchette, je dirais, je sais pas, c'est un cachet moyen d'un artiste, un musicien un peu partout. Ça doit être quoi, 550 euros avec les charges en plus. Ils sont 200-300, c'est-à-dire sur un groupe où ils sont 5 qui viennent d'Angleterre. Tu vois, avec leur transport, c'est eux qui se débrouillent. Tu vois, ça peut être en 2-3 000 euros. Okay. Tu vois.
On est loin des 300 000 balles.
Je peux te dire qu'après, il faut charbonner en tant qu'artiste et parcourir les scènes, etc.
Après, pour aller faire en Islande pour lui chercher sa bouteille d'eau. Alors en plus,
Oui, là, c'est Billy Corgan. Non, on retire, t'aimes pas Billy Corgan. En même temps, j'avoue, le move est bizarre. Je veux cette eau. Peut-être pour terminer cette émission, Jean-Louis. Chaque année, vous avez une telle expérience que je ne pense pas que l'existence des trans, que vos finances, etc., ça peut être mis en péril du jour au lendemain. Mais est-ce que c'est quand même un défi permanent, annuel, de se dire comment faire en sorte que cette édition, elle fonctionne, qu'on ne perde pas de fric Ça peut encore arriver, ça?
Bien sûr que ça peut arriver demain, bien sûr, bien sûr. Tu vois, l'important, c'est que tout le monde soit en sécurité, se sente bien, etc. Des sous, on en a déjà perdu, ça peut revenir. Puis c'est surtout qu'on peut avoir, surtout pour l'année prochaine, des baisses de subventions. Donc, tu vois, dans ces cas-là, on va dire, là, on va réduire la voilure, ou tu vois, ça n'empêchera pas le festival d'exister, mais il peut exister différemment. Mmh. Tu vois, il y a même des festivals maintenant, si tu veux, qui attiraient tant de gens, mais ils ont décidé d'en attirer moins eux-mêmes. Tu vois, ils décident de faire un truc plus petit, mais pourquoi pas? Tu vois,
il n'y a pas cette logique de croissance.
On
n'a
jamais voulu faire ça.
Ouais.
Attends, je veux dire, on n'est pas là en train de se dire qu'on allait faire 100 000 pélos. Attends, loin de là, ça ne m'intéresse pas.
Non, mais en termes de line-up, par contre, c'est vrai que donc là, on est à 83.
Oui, oui.
J'imagine qu'en fait, on constate une progression depuis la toute première édition et que ça grandit sans cesse.
Oui.
Donc il y a cette volonté peut-être un jour de se dire aussi, là 83 ça sera plus possible, s'il faut faire 50 on fait 50.
C'est pas ça qui mettra en danger le festival, ça fera moins d'artistes, c'est dommage, mais peut-être dans différents lieux, ailleurs, tu vois, ça peut être réinventer le festival complètement autrement. C'était un sacré pari, mais ça peut être super excitant aussi. Là, tu vois, on est en train de tout changer au Parc Expo. Je veux dire, c'est un sacré boulot pour toutes les équipes, tu vois. Mais d'un autre côté, on est tous excités d'y aller.
C'est des nouvelles scénographies, des choses comme ça.
Ah oui, scénographie. C'est-à-dire que les halls, à part un hall, tous les autres bougent. Donc, tous les repères d'avant n'existent plus. Tu vois. c'est rigolo. Mais bon, c'est pas que rigolo. C'est un sacré boulot.
J'imagine, une responsabilité. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce que tu disais, l'une des peurs, ça peut être la baisse des subventions. Dans le financement d'un festival comme les Trans Musicales, c'est quoi globalement? Alors, il y a les gens qui payent leurs billets, bien sûr, la billetterie. Les subventions, c'est quoi globalement les sources de revenus
Après, je sais pas des chiffres exacts, mais tu vois, on est aidé par la DRAC, donc le ministère de la Culture. Tu as aussi donc, le département, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes qui nous aide beaucoup quand même, parce qu'on représente quand même une image forte. Jeune pour la ville de Rennes.
Un rayonnement,
c'est international. c'est vrai que quand même, c'est une belle image, quoi, tu vois. Moi, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après, on a un public qui est assez fidèle aussi, tu vois. C'est une expérience pour ceux qui vont venir pour la première fois, qui ont enfin l'âge, les parents les ont laissés y aller. Il y a ceux qui viennent depuis 15 ans, qui se retrouvent tous les ans. Alors, ils viennent de toute la France, ils dorment chez machin dans un duvet. Enfin, je rigole. Mmh. Mais c'est un peu ça, parce qu'il y a ça aussi, tu vois.
Et pour vos finances, c'est quoi? C'est 20%, 50% les gens, à peu près, l'équipe, la billetterie?
Le public, moi, je dirais... Ah oui, c'est au moins 50%.
Ah oui, donc ça reste la source principale.
Ah oui. Enfin, après, t'as les subs, tout ça, tu vois, mais... Il y a du monde, donc tu vois.
Mais j'ai appris plein de trucs, Daz.
C'est ça qui est incroyable avec cette émission.
J'ai appris plein de trucs.
Ah bah, c'est bien, alors.
C'est le but, je pense que nos auditeurs aussi...
Oui.
...ont appris plein de trucs.
Je sais pas que j'ai pas dit trop de bêtises, mais bon, tu vois...
Tu sais, on a une tradition dans cette émission.
Très.
C'est de terminer avec une recommandation musicale.
D'accord.
Ça va te parler, ça.
Ouais.
Donc, on s'écoute un extrait d'un truc que tu as envie de faire découvrir aux gens.
J'ai envie d'écouter Bonbon depuis tout à l'heure.
Vas-y, voilà. C'est parti.
Alors, ce que c'est?
Non, je connais pas Bonbon.
C'est Fuckers. F-C-U-K-E-R-S.
Okay. Le titre est bien déjà, Fuckers. Ouais. De Bonbon et Bonbon. B-O-N-B-O-N?
Ouais. Je crois.
Alors, tu sais quoi?
Il est sur la compile.
Je les trouve pas sur. Ah ouais, tu veux montrer la compile? Ouais, parce que c'est à chaque édition que vous faites une compile?
Ouais.
Ok, donc ils sortent en fait un CD avec des titres de gens qui vont se présenter au festival.
Après, c'est un vrai disque qui s'occupe du premier. C'est pas une compilation comme des magazines, tu vois, ou des nouveautés.
Et ben on s'écoute ça.
Voilà.
Bonbon Fuckers. Quel titre?
Fuckers.
Fuckers.
Voilà.
Club tout ça, Jean-Louis.
Ah ben oui, c'est pour danser. Là.
Tu vas,
ouais.
vas clubber toi régulièrement
ça au club, non, j'y vais un peu moins, mais là je vais bien clubber au trans par contre. Ouais. C'est sûr, j'aime bien danser en plus, donc voilà.
T'arrives vraiment à écouter de tout, c'est fou ça.
Pourquoi hein?
T'intéresser à plein d'esthétiques et tout.
Bah oui, quand même. C'est chouette.
C'est peut-être un peu cliché, mais une part de vrai, on l'observe, c'est que parfois avec l'âge, les goûts se figent un peu.
Ah bon?
Ouais.
C'est pas vrai.
Pas pour toi en tout cas.
Pas pour moi, non, j'espère. Mais
bon, après, il a quand même dit qu'il y a des trucs qu'il aime pas. Et,
ouais, et ils sont pas programmés au
retraite. Non, 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 je vous dis pas qui.
Das Marocco.
Ouais, Marocco, c'est un mec qui s'appelle Homeshake.
Okay.
Peter Sagar, qui était guitariste de Mac DiMarco notamment. Oh. Pour un morceau qui s'appelle. Alors en fait, c'est que des consonnes presque. Kmlwug.
Ah, donne-moi les deux premières.
K-H.
K-H.
C'est Kissing, Hugging, Making Love.
Ah, je l'ai trouvé.
Voilà, Making Love, Waking Up, Getting High.
Donc on n'est pas dans le rap là, alors si c'est avec Mac DeMarco et tout.
Non, c'est Mimsou.
Ok.
Ouais, voilà, il faut de temps en temps. Voilà quoi.
Eh ben écoute, Homeshake.
Ouais, voilà, c'est des initiales.
Quoi, c'est, ça reste,
c'est sucré.
Ça reste que dazesque.
Oui.
Ça peut faire musique de stoner potentiellement.
Ouais, bien sûr.
On peut se caler avec un petit cigarillo.
Il y a Getting High dedans.
Voir autre chose.
Ça se termine sur Getting High.
Je vois, très bien.
Alors, Salman,
oui,
qu'est-ce que tu nous recommandes?
Alors, figure-toi que j'ai découvert, peut-être que tu connais Jean-Louis d'ailleurs.
Ils sont passés au trans.
J'étais passé à côté, ça je sais pas, c'est une bonne question. J'étais passé complètement à côté d'un album qui est devenu un album quasi culte aujourd'hui. D'ailleurs, le vinyle, il part à plus de 2000 balles, tu vois, en
okay.
compliqué. C'est un groupe français qui s'appelle Paradis et qui a sorti un album qui s'appelle Recto Verso.
Ouais, je les connais bien, je les ai fait au Transmusical.
Les
deux zozos, là. Et
Paradis, en fait, ils ont fait cet album et ils ont splitté après, ils ne s'entendaient plus.
Ouais.
Ils font partie des groupes qu'on a vus au Trans et qu'on ne reverra plus jamais. Alors.
Au grand désespoir de beaucoup de gens qui ont été marqués par cet album. Tout l'album, franchement, est trop bien. Et c'est une espèce de house avec de la chanson française, enfin du chant en français dessus. Et les paroles sont pas mal, ce qui est pas toujours...
Ok, parce que là, j'avais envie de me foutre en l'air avec ce que tu me vendais, là.
Et moi, après, ça se trouve, ça va pas te parler du tout.
Ah, écoute, mais si.
Tu vas voir, mais tout l'album est trop bien, franchement.
Ok, allez, ouais. C'est parti.
T'avais bien aimé, tu te rappelles, toi, pas?
Ouais, mais c'était des maxi que j'avais deux à l'époque. Ouais, ouais. Ben, avec des morceaux de 6-7 minutes, d'ailleurs, des trucs assez longs.
Ils sont souvent longs. Là, tu vois, ah, ouais. Il dure 6 minutes 46, le morceau, par exemple. Ouais. C'est Garde-le pour toi, et c'est sur l'album Recto Verso, Paradis. Je vais avancer un peu parce que ça met du temps à commencer. Ouais.
Sont super jolies en général.
Oui, c'est Mims.
Oui. Oui, moi, je trouve que l'exercice est difficile et particulièrement bien réussi chez Paradis.
Ouais, bravo. Bah, du coup, ça a pas marché.
Bah non, mais... oui, mais non, mais l'album est bien, tu vois.
Ouais. Bah, 2000 euros,
malheureusement. On peut l'écouter.
Une vingtaine à la maison.
T'es riche, Louis.
Attends. Moi, j'ai que des maxi, donc.
Ah, c'est dommage.
Ouais.
Ça se trouve, ils sont bien cotés aussi.
Ouais, faut les garder.
Mais j'aimais vraiment bien ce couplage. C'est vrai que le chanteur sur scène c'était pas son élément, la scène. Tu vois, je pense qu'il était mieux en studio, puis Pierre qui faisait les musiques, puis c'est top, il a rebondi après.
Exactement, voilà. Il continue une carrière solo. Ouais,
ouais, ouais, tout à fait, des choses intéressantes. Mais c'est une des créations vraiment qui a été un peu. T'es pas vraiment.
Pour le live, ouais, c'était moins bon.
Ouais, c'était voilà, pas. Ça
rejoint les trucs dont on parlait.
Ouais. En tout cas, leur musique est toujours top.
Ouais, c'est très chouette.
Et un petit SO à François, notre monteur, qu'on remercie pour le montage, évidemment, de cette émission. Qui m'a rappelé l'existence de Paradis et de.
Bah oui, parce que j'allais dire, c'est très François Corps, cette affaire.
Ça l'est, effectivement. Ah, et j'étais passé à côté il y a très longtemps. Je voyais bien la pochette, j'avais dû écouter un morceau et tout. Et là, François m'a dit, mais non, mais réécoute tout l'album. Et effectivement, c'est très, très bien.
Bravo, François.
On en profite pour remercier aussi Flav évidemment,
qui est assis sur un meuble depuis une heure
et
demie.
Le pauvre, qui a géré toute la technique, en plus hors les murs et tout, c'est un peu compliqué.
Ouais,
on espère que la vidéo était quand même cool, que le son est bien aussi, que ça change pas trop d'habitude.
Bien sûr.
On refera peut-être un peu ce truc. En gros, quand il n'y a pas la possibilité de faire venir les gens à nous, on va
chez les gens.
Quand on a l'opportunité de parler avec des gens comme Jean-Louis par exemple, on va essayer de se débrouiller quand même pour le faire.
Merci Jean-Louis. Du coup, grosse merci force Jean-Louis. pour le festival.
Plus qu'une semaine, donc tout va bien.
Le 4 décembre. Et bah tu sais quoi, ça va
sortir.
Cet épisode sort dans exactement une semaine, donc on sera le combien ? On sera le 4, le jour même. Festival commence aujourd'hui.
C'est maintenant.
Et bon festival à tous ceux qui sont là, puis aux autres, bonne émission.
Et voilà.
Merci beaucoup Jean-Louis, merci Jean-Louis. Évidemment Thomas aussi.
Bien sûr, la famille. On n'a pas les mugs.
Grâce à qui on fait cette émission. Un petit merci aussi à Sombrero quand même qui nous accueille.
Oui, merci Sombrero.
Elodie, Gwenola aussi, qui nous ont accueillis aussi, et grâce à qui on a pu faire ça. Et merci. Puis nous, on se retrouve dans 15 jours des émissions qu'on a déjà tournées en vrai. Daz.
On sait
ce qu'il va y avoir dans 15 jours et même l'émission d'après encore.
À l'année prochaine.
Et à l'année prochaine. C'est vrai qu'on va se retrouver dans un an. Bref, dans un an.
Bon,
ça sera en 2025.
En 2025.
Quoi. Bref, c'est notre papote interne.
Ciao.
Dans 15 jours, mercredi prochain. Non, pas le prochain, dans 2 semaines.
Oui,
c'est
bref.
Ça. Ouais.
Bon, on se revoit en janvier.
Ciao. Bye bye.